Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Mon Paris FM, dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, Abou et Quentin avec nous ce soir, Ibrahima et Cheikh Kenza. Comment vas-tu Abou? Ça fait un petit moment.
Ça va, ouais, ça fait un long moment, mais toujours un plaisir d'être là autour de la table.
Merci toujours
de
de t'accueillir. T'as fait un peu le tour du monde, hein. On a vu ça, t'as pu couvrir pas mal d'événements ces derniers temps. Là, t'es un peu posé, ça va?
Ouais, ça va, un peu posé. Ouais, mais ça fait du bien de se poser aussi. Après, on espère qu'on aura d'autres challenges d'ici la fin de l'année. Mais ça fait du bien de se poser un peu.
On aura d'autres, bon, on l'espère en tout cas. Ça va, Quentin?
Ça va, super. Bon petit week-end foot qu'on a passé. Et voilà, ça fait plaisir d'être de retour aussi ce soir.
Ça nous fait plaisir aussi, ça faisait un moment que t'étais pas revenu. Et toi, Ibrahima, ça va?
Salut, ça va? Bah, ça va, un bon week-end et on est pressé d'analyser les matchs qui se sont déroulés ce week-end.
T'as regardé un peu la Ligue 1?
Ouais, même. J'ai essayé. Mais non, franchement, ce week-end, ça allait. Il y a eu pire, franchement.
Ouais, franchement, il y a eu des
bons
matchs.
Il y a eu de belles affiches.
Et toi, chez Kenza, comment ça va?
Bien, ça va bien.
Pas trop fatigué?
Non, ça va. Pourquoi je devais être fatigué?
Bon, je sais pas, parce que t'as fait un petit foot, mais...
Là, laisse le plateau.
Ça va alors, si ça va bien. Bah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec le déroulé à bout du foot, à bout de souffle. Pardon, à bout du souffle. À bout, je vais perdre mes mots. On va commencer avec la question à BDF. Bien évidemment, la semaine européenne, retour sur les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Rennes, Toulouse, Lens s'arrêtent aux portes des huitièmes. Et l'OM qualifiée, la seule équipe française qui se sont qualifiées la semaine dernière. Une semaine un peu désastreuse pour les équipes françaises en Coupe d'Europe. On va demander tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Abou, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, toi tu dis désastreuse. Moi j'ai écouté d'autres personnes et c'est... quelque chose que je trouve d'assez effarant, pour ne pas citer le nom des confrères, mais c'est des journalistes de l'équipe de Greg qui expliquaient que ce n'était pas si désastreux que ça d'avoir trois clubs éliminés, qu'on avait vécu des émotions, que c'était une formidable chose, qu'on a vu Benfica, que Toulouse lutter contre Benfica, qu'on a vu Rennes tenir tête au Grand Milan, qu'on a vu Lens nous donner espoir d'aller loin. Mais moi je trouve que c'est plus que désastreux. Lens, t'as pas le droit de te faire éliminer à ce stade de la compétition. Pas de cette manière-là, pas quand tu mènes 2-0 comme ça. Toulouse, ils ont l'occasion, mais 100 fois, de battre Benfica. Genre, ce qui est le plus frustrant dans le match de Toulouse, à la limite, tu dis c'est une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, mais en Coupe d'Europe, là, ils avaient les occasions pour finir, ils n'y arrivent pas. Rennes, bon, le match, la messe, elle était dite dès le match aller, donc c'est pas grave. Donc ouais, c'est désastreux et je pense qu'on peut pas se satisfaire de ça. Tu peux pas te satisfaire de sortir au barrage d'une Coupe d'Europe. Tu peux te satisfaire quand ça se déroule en quart de finale, en demi-finale, vas-y, pourquoi pas. Nos équipes, elles sont allées un peu loin, mais sortir comme ça, de cette manière-là, trois clubs et... tout en se disant que c'était prévisible, on savait, genre on sentait qu'on n'allait pas aller plus loin, je trouve que c'est honteux et désastreux.
Après, Rennes, ils ont quand même fait une très belle performance. Hein.
What?
Rennes, ils ont quand même réussi à s'imposer face à l'AC Milan, c'est quand même chapeau. Après, moi, je pense que c'est au match aller où ils ont dû un peu plus serrer à l'arrière, mais...
Ouais, mais ça reste quand même une élimination. Et quand derrière, il m'échappe le nom du coach de Rennes, Julien Stéphane. T'as Julien Stéphane en conférence de presse qui vient de dire oui, c'est le plus beau match de notre histoire en Coupe d'Europe. Ouais, ok, vous avez gagné, mais vous êtes éliminé. Enfin, la finalité, c'est que vous êtes éliminé. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, Rennes est dehors. 1 moins 1, ça fait même pas si ça fait 0. 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, Rennes est dehors et c'est triste pour le football français.
Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine européenne pour les clubs français?
Bah, je rejoins un peu l'avis d'Abou. Quand t'es Rennes, tu te dois de faire mieux. T'as un effectif plus que de qualité avec des joueurs qui ont tous des niveaux. Quand ils veulent jouer, ils peuvent montrer de très belles choses. Et tu ne dois jamais prendre 3-0 à San Siro au match aller. C'est trop dur, selon moi, de revenir 3-0 contre Milan en match retour, même si, bon, Ok, il y avait l'ambiance, il y avait la folie dans le jeu, mais bon, encore une fois, tu prends deux buts, donc c'est impossible de revenir. Toulouse, bon, forcément, une équipe qui joue le maintien, c'était les émotions, mais on ne peut pas leur reprocher de se faire sortir, en barrage.
Si on peut.
Bah, on peut. Moi, non.
T'as regardé le match?
J'ai regardé le match.
On peut.
Non, mais ils ont les occasions. Bah, ils ont toutes les occasions, mais il faut finir. Mais sur le match, forcément, tu peux avoir des regrets, mais sur une potentielle qualification, tu peux pas dire bon bah Toulouse se devait de se qualifier contre le Benfica.
Après le match, si tu peux. Mais c'est ça qui est désolant, c'est que avant le match peut-être pas, mais quand tu vois le match qu'ils ont fait.
Ah, mais si... forcément ils ont plein de regrets. La tête de Spierings, tous les jours il doit terminer au fond. Mais bon voilà, maintenant ils vont se concentrer sur le maintien. Je pense que c'est ce qui pour eux est le plus important. Ils ont fait leur compétition européenne comme Nantes il y a un ou deux ans.
Mais ce qui était bien à Toulouse, c'est que je pense que la Coupe d'Europe leur servait d'énergie pour la Ligue 1. Parce que là, tu le vois, le match qu'ils ont fait contre Benfica, c'est plein d'enseignements qui leur a servi pour leur match ce week-end contre Lille, ouais, où ils ont gagné 3-1. Oui. Et je pense que la Coupe d'Europe permettait à Toulouse de se sublimer en Ligue 1. Et c'est dommage de ne plus avoir ça.
Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense que c'est un peu comme Nantes, ça les mettait un peu dans le dur. Ça leur a réussi que contre Lille, mais auparavant, on voit les dernières statistiques de Toulouse, c'est désastreux. C'est que des défaites, c'est défaite sur défaite. Du coup, non, moi, je pense pas que c'était une bonne chose. Moi, je pense plutôt que c'est une bonne chose qu'ils se sont fait éliminer à ce stade-là. Bon, de la manière, je ne pense pas. Mais maintenant, pour toi, Brahima, dis-moi, quelle équipe tu penses qu'en Europe, là, vraiment, dans les trois non qualifiés, qui aurait dû être qualifié, selon toi, en tout cas, qui aurait pu, qui avait le plus de chance, en tout cas, ceux qui t'ont donné la plus grande déception?
La plus grande déception, bah forcément, ça reste le RC Lens, parce que faire match nul à domicile, déjà, je trouvais ça un peu limite. Et je trouvais que c'était se mettre dans le dur pour rien. Et quand tu mènes 2-0 à l'extérieur face à Fribourg et que tu te fais remonter 3-2 en prolongation, surtout vu le scénario du match, aussi, il y a eu des changements que j'ai pas trop compris de la part du coach. Mais de toute façon, c'est le problème du RC Lens, c'est le banc. Hein. C'est ce qui leur a manqué durant toute leur compétition européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Europa League. On l'a vu sur cette double confrontation, c'est le banc. Aujourd'hui, le RC Lens, il y a peut-être 14 joueurs qui sont peut-être au niveau. Et à partir du moment où le coach a fait plus de 3 changements, on voit que c'est compliqué. Et le banc manque tout simplement de profondeur. Après, pour revenir sur Toulouse, bah moi, je trouve que vous manquez quand même assez. Vous manquez un peu d'ambition quand même. Parce qu'au vu du match, je pense qu'ils auraient quand même pu se qualifier. Il y avait quelque chose à faire. Hein. Cette équipe de Benfica, elle était prenable.
Non, mais c'est pas un manque d'ambition, c'est...
Enfin, j'ai du mal à comprendre comment on peut se satisfaire c'est d'un pas tel parcours. Non, alors
on n'est pas satisfait, mais c'est pas l'équipe sur laquelle tu vas jeter la pierre pour dire les clubs français ne sont pas qualifiés.
Bah, mais tu crois les Allemands, ils mettent une pièce sur Fribourg ou quoi?
Fribourg, ça fait 2 saisons qu'ils sont très bons.
Mais non, mais...
Là, ils ont fait l'exploit du RC Lens, parce que bon, c'est une faute professionnelle du RC Lens de mener 2-0 et de se faire remonter à 3-2. Mais bon, ils ont une bonne équipe, ça fait quelques années qu'ils sont bien rodés.
Les Toulouse, clubs israéliens, la Coupe de France l'année dernière. Hollandais.
Non, mais si on reste sur cette double confrontation, sincèrement, il y avait vraiment l'espace pour aller battre
Benfica.
Mais oui,
est-ce que la question c'est, est-ce qu'il y avait la
Benfica en Ligue des Champions, ou la il me semble qu'ils ont pris un point, je crois, ou je sais plus, mais ça a été catastrophique en Ligue des Champions.
Non, mais oui, ils se qualifient sur deux pénalties de Di Maria, j'ai pas le contraire. Mais la question c'est, est-ce que bah, sur le match on a été déçus, ou la question c'est les clubs français de cette semaine, est-ce qu'ils nous ont déçus? Pour moi, Toulouse, c'est pas le club qui m'a le plus déçu cette semaine.
C'est peut-être pas le club qui nous a le plus déçus, mais c'est un des clubs qui nous ont déçus. Nous, on espérait en tout cas. Après, rien n'était joué, à part pour Rennes, rien n'était joué pour le reste. On pensait qu'il pouvait encore, il y avait moyen de se qualifier. Et en vue des matchs retour, il y avait largement la place des deux côtés. Et là, franchement, c'est une déception. En tout cas, on doit le prendre comme une déception. On ne doit pas se dire Toulouse, il joue le maintien parce qu'il joue le maintien. Fribourg, de l'autre côté, ça ne va pas mieux. Cette année, en Bundesliga, ça ne va pas mieux du côté de Fribourg. Là, ils ont enchaîné avec une victoire, mais Fribourg, ils sont un peu dans le dur. Ils sont au milieu de tableau, même plus vers le bas. C'est compliqué pour Fribourg aussi cette année. Du coup, l'année dernière, on a eu une équipe de Fribourg vraiment impressionnante, on va dire, vraiment sur plusieurs domaines.
Un peu comme
Lens
l'année dernière.
Un peu comme Lens, mais cette année-là, il y avait la place pour les battre. En tout cas, je pense. Chez Kenza, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces matchs européens que tu as vus cette semaine?
Bon, si j'aimerais décortiquer, je pense que Rennes, par exemple... Au match aller, vraiment, ils ont pas bien entamé le match, ils n'étaient pas dans le match. Au retour, ils ont essayé de faire le résultat, mais c'était déjà trop tard. Les carottes étaient déjà cuites. Comparé à Lens, je pense que c'est plus dans l'aboutissement du match, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont lâché le pied, ou comme il a dit tout à l'heure, la profondeur de banc. Mais je pense que Frank Hez, il savait à quoi s'attendre, parce qu'une saison, ça se prépare sur plusieurs objectifs. Déjà qu'ils étaient out en Ligue des Champions, ils devaient préparer cette Ligue Europa. C'est un peu le problème de nos clubs français qui ont tendance à ne pas jouer cette compétition à fond, parce que ça se répète, c'est pas la première fois que des équipes françaises se font sortir par des équipes vraiment, je peux dire, c'est des pseudo-équipes, c'est pas des grandes Europe comme on dit quand même. Lens avait les moyens pour sortir Fribourg, Rennes aussi, parce que ce Milan, c'est que moi j'ai vu au retour là, c'était pas le grand Milan.
Oui, il y a eu un petit turnover quand même. Il faut pas oublier que Rennes, même si c'est des pénaltys mérités, il y a eu quand même 2 pénaltys pour Rennes. Même si Bourigeaud fait un match magistral, on n'imaginait pas une seule seconde que Rennes allait leur mettre une fessée au match retour, même avec le turnover. Parce que franchement, tu peux pas dire demain que Rennes, ils sont favoris devant l'AC Milan.
Néanmoins, tu veux me laisser terminer, parce que là, c'est comme si tu m'as interrompu. Donc, je suis pas allé au bout de mes idées. Je te disais que Rennes, vraiment, ils avaient les 4 pour se qualifier au bout des 2 matchs, parce que oui, c'est une compétition qui se joue en phase aller et tout. On ne peut pas juger sur un match. Le match aller, certes, ils ont fait un mauvais match, mais au match retour, ils ont montré un autre visage, ils ont montré qu'il y avait de l'envie. Tout ça, ils ont été mieux tactiquement, ils ont été mieux aussi dans l'approche du match. Ils ont causé beaucoup de problèmes à cette équipe de Milan. Mais concernant Lens, je pense que là, l'entraîneur, il a fait que des mots, je pense que oui, des mauvais choix, même s'il y a une profondeur de banc. Mais dès l'instant qu'on mène 2-0, on peut préserver le résultat en étant joueur aussi. C'est un grand entraîneur, il sait vraiment à quoi s'attendre. Comparé à Toulouse et tout ça, oui, les équipes françaises ne jouent pas à fond la Coupe d'Europe qu'on appelle la C3. C'est-à-dire, cette Ligue Europa, il ne la joue pas à fond, parce que quand on regarde sur ces dernières années, il n'y a que Marseille qui est allé au bout. La plupart du temps, je ne sais pas si cette Coupe d'Europe, là, il ne la considère pas ou quoi, mais c'est tout le temps des revers, tout le temps, là,
Je pense qu'il la considère, mais c'est juste, c'est difficile. J'aimerais te reprendre et demander l'avis des autres chroniqueurs sur le fait que Frank Hez a fait des mauvais résultats. Moi, je pense que absolument pas, parce que généralement, chez Kenza, à chaque fois quand tu vois une défaite quelque part, le premier que tu accuses, c'est le coach. Tu dis le coach, il a pas fait les choses bien, etc. Or qu'il
mais
a l'habitude
coach
de jouer.
Excuse-moi, chez Kenza.
Oui, on dit pas qu'il est pas le premier responsable, mais quand l'équipe gagne 2-0, excuse-moi, chez Kenza, mais quand l'équipe gagne 2-0 à la mi-temps, c'est que forcément tactiquement ça a été bon, et on a vu même dans le jeu, Lens n'ont pas été dégueulasses. C'est en deuxième mi-temps, ils ont commencé à se faire marcher dessus parce qu'ils ont commencé à reculer, mais je pense pas que c'est un problème de
là je t'interromps, si tu me permets, un match c'est 90 minutes, c'est pas une mi-temps. Quand tu me dis que l'équipe mène 2-0, le match n'est pas terminé, on se
mais bien évidemment
concentré.
Mais à partir du moment où l'équipe gagne 2-0,
donc là tu veux que j'accuse qui Jack... parce que c'est l'entraîneur qui est le premier responsable, quoi.
C'est pas Frank Hez qui à la 90e minute se prend le but sur
vraiment c'est pas Frank Hez, mais à un moment donné, quand ton équipe revient au vestiaire et qu'il y a un changement de mentalité, là l'entraîneur il se doit d'interpeller ses poulains, il se doit vraiment de dire qu'il y a une nouvelle tactique. Soit on part vraiment sur cette base où on essaie de protéger le résultat, ou soit on peut jouer un système défensif avec des projections
rapides. Je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'était compliqué.
Comme je le disais précédemment, je pense que le vrai problème de Lens, c'est l'effectif, tout simplement. Parce que quand vous comparez ce que les changements de Fribourg ont apporté par rapport à ceux de Lens, on voit que c'est ça qui fait la différence sur le match. Et à un moment donné, tu peux pas aller au bout d'une compétition européenne avec 13 ou 14 joueurs, c'est pas possible.
Mais il y a beaucoup de jeunes à Lens.
Mais il le savait quand même,
il le savait.
Au début de saison, Lens, ils avaient un objectif bien précis. Ils le savaient. Ils savaient que s'ils faisaient une mauvaise C1, ils allaient se retrouver en C3. Donc ils le savaient. À un moment donné, on ne va pas vraiment rester sur ça. Voilà, tout le temps, c'est comme ça. Non, une profondeur. Lens, c'est un club aujourd'hui. Aujourd'hui, un club très ambitieux. Donc, ils se doivent aussi de marcher leur monture pour avancer. Donc là, je pense que l'entraîneur est fautif, selon moi, et je pense que c'est la meilleure décision. Il n'y a pas autre chose à dire. Quand Lens a fait une bonne saison l'année dernière, tout le monde a enchanté Frank Hez, que c'est un grand entraîneur, voilà, il nous a fait sortir une masterclass. Mais aujourd'hui, quand les résultats sont mitigés, il faut en parler. C'est lui le premier responsable, quoi qu'il arrive.
Merci, Shekenza, merci. Maintenant, on va passer à l'Olympique de Marseille, parce qu'on a parlé que des clubs désastreux, mais l'Olympique de Marseille nous a fait plaisir quand même, en proposant une bonne copie, je pense. En tout cas, un bon coup de marteau de Jean-Louis Gasset, qui excelle en ce moment avec l'OM, notamment, on l'a vu aussi hier avec la victoire, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Mais Abou, tes premières impressions, toi, sur l'OM?
Ouais, c'est C'était une victoire importante de toute façon pour les Marseillais et surtout pour Jean-Louis Gasset. Quand tu arrives comme ça, premier match, c'est un match couperé, c'est contre le Shakhtar Donetsk. Tu es obligé de remporter ce match-là, sinon le reste de ce qui te reste en termes de contrat, ça risque de s'annoncer très chaud quand tu as des supporters déjà tendus. Donc voilà, tu te retrouves face à une équipe après. Marseille s'est qualifié, c'est une bonne chose, mais tu te retrouves quand même contre une équipe qui, on le rappelle, il y a la guerre dans leur pays, une équipe qui joue plus dans son stade et une équipe qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois. Et leur premier vrai match était contre Marseille au match aller. Donc le fait que Marseille élimine le Shakhtar, c'est ce qu'il y a de plus logique. Après, oui, quand tu prends le contexte des deux équipes, c'est une belle chose. Et en fait, ce qui nous fait du bien dans cette victoire de l'Olympique de Marseille, c'est que c'est la seule victoire française. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup de bien. Après, c'était un bon match. C'était un match... moi, j'ai trouvé un match assez haché. Je trouve pas que l'OM ait été vraiment supérieur au Shakhtar, mais c'était un bon match avec des entrées qui ont fait du bien. Ismaïla Sarr, quand il rentre sur son côté droit, ça fait du bien. C'est un coaching qui paye. En fait, Jean-Louis Gasset, il est venu à l'Olympique de Marseille. Et comme tu le disais, là, on va en parler un peu plus tard au sud de l'émission. Mais de la même manière que ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait Jean-Louis Gasset depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, c'est de faire les choses dans la norme. Il fait les choses de normal. J'arrive, je pose un 3-5-2. J'arrive, je mets les joueurs à leur poste. J'arrive, je parle avec les joueurs. Et je gagne. C'est tout ce qu'il fait, en fait. C'est normal. Il n'est pas dans des compositions farfelues. Je sais pas quoi.
On a vu même des anciens en tout cas qui avaient été mis un peu au loft, entre guillemets, Pape Gueye qui est revenu et qu'on a vu
normal dans un club de foot, et pour l'instant ça paye pour lui et ça a payé ce jeudi et c'est une très bonne chose. Et l'OM en tout cas aujourd'hui fait partie de ces clubs qui ramènent des points à l'indice UEFA pour la France, et c'est très important. Ça nous permet de distancer un peu la Hollande, et ça c'est très important pour la suite de nos clubs.
Ouais, je te rejoins sur le fait que Gasset, en fait, il vient remettre de la confiance dans cette équipe qui en manquait cruellement. Moi, ça me fait penser un peu à Pierre Sage avec Lyon. En fait, ils ont repris les bases dans une équipe qui n'y arrivait plus du tout. Et en fait, quand on reprend les bases, quand on remet les joueurs justement à leur poste, en confiance et tout, forcément, ces joueurs-là, ils vont performer. C'est pas des mauvais joueurs de foot. Le match contre le Shakhtar, je suis d'accord, c'était très haché. C'était des actions individuelles qui ont permis à Marseille de s'imposer. On regarde le match contre Montpellier, déjà il y a du mieux dans le jeu, c'est le temps que ça se mette en route, mais voilà, c'est de la confiance, et quand la confiance va revenir, Marseille va forcément aller mieux, je pense.
On espère. Chez Kenza, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'OM cette semaine en Coupe d'Europe?
Oui, l'OM cette semaine en Coupe d'Europe, ils ont respecté le rang. Cette équipe du Shakhtar était déjà prenable, on a vu à l'aller. Et n'eût été de faute de l'OL, vraiment, qui relâche un peu, et puis le Shakhtar revient. Mais à part ça, comme il a dit, vraiment, c'est juste le regain de confiance. L'entraîneur a eu le bon discours, voilà, et la tactique aussi était bonne. Et je pense que tout était réuni pour que l'Olympique de Marseille fasse un très bon match. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi Aubameyang, que tu as beaucoup décrié et critiqué sur ce plateau, qui revient et là, qui nous enchaîne des très belles performance. J'espère que tu auras au moins l'audace de dire que oui, vraiment, qu'Aubameyang, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, parce que là, Aubameyang, tu l'as
beaucoup... J'ai jamais dit que Aubameyang était un mauvais joueur. Je disais juste que Aubameyang, quand il est arrivé à Marseille, les performances qu'il donnait et les performances dont normalement il est à la hauteur, et pourquoi on l'a appelé, il ne remplissait pas son tableau. Et ça, c'est clairement, je pense que lui-même le sait, puisque lui-même le disait. Et on a juste à regarder ses statistiques. Hein. Il a enchaîné pas mal de matchs avec une disette, que ça soit même en termes de passes décisives ou en termes de buts ou même dans le jeu avec ses loupés, c'était vraiment énorme. Et c'est ce qui a fait perdre pas mal de points à l'OM. Et aujourd'hui, je pense que l'OM serait vraiment en compétition pour la Ligue des Champions, et aujourd'hui ils ne le sont pas, et c'est par rapport aussi à ce qu'ils ont fait auparavant. Du coup, non, aujourd'hui ce qu'il fait, c'est normal, c'est Aubameyang, on le connaît, de Arsenal, Borussia Dortmund, au Barça aussi, mais j'ai décrié ce joueur à ce moment-là parce que c'était normal et parce qu'à ce moment-là il était mauvais, c'est tout. Brahima, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'OM cette semaine?
J'ai trouvé la victoire, je vais pas dire logique parce qu'il faut quand même jouer les matchs, mais je trouvais la victoire, c'était plutôt cohérent. Après, comme Abou l'a précisé tout à l'heure, en fait, Jean-Louis Gasset, il est juste venu pour remettre les choses dans l'ordre. Parce qu'avec Gattuso, ça commençait à partir un peu dans tous les sens. Là, il a remis un peu plus les choses dans l'ordre. Déjà, il joue en 3-5-2, parce qu'apparemment, les joueurs le réclamaient. Et visiblement, c'est un système qui convient mieux au profil des joueurs de l'Olympique de Marseille. Après, maintenant, par rapport au Shakhtar, je l'avais dit hein, dans l'émission précédente, que ce n'était pas une équipe qui, normalement, devrait inquiéter Marseille. Et même sur le but, je crois qu'il n'y a pas réellement faute sur le pénalty. Donc, sincèrement, c'est une victoire méritée et logique pour l'Olympique de Marseille qui revient plutôt bien. Et Après, c'est toujours pareil, hein. Le souci, c'est que quand on change de coach, ça peut bien aller pendant 2 semaines. Mais maintenant, c'est sur la
Exactement.
Durée qu'on va voir.
On se rappelle de Gattuso. Hein,
oui,
quand
on se rappelle quand Gattuso il est arrivé. On pensait tous qu'il allait finir la saison. Aujourd'hui, on en est au 3e coach pour Marseille en une seule saison. Mais... Et on espère que ça continuera comme ça pour Jean-Louis Gasset et ses hommes, parce que c'est toujours compliqué. C'est sur la durée, en fait, que j'ai l'impression que c'est compliqué à Marseille.
Ils perdent le souffle.
Mais le problème de Gattuso, quand il arrive, c'est qu'il joue. Il joue en 4-3-3, je crois, ses premiers matchs. C'est un peu compliqué, il n'y arrive pas. Il passe en 3-5-2 le mois de décembre, il se passe super bien. Puis il redécide de passer en 4-3-3 avec comme explication, oui, moi, je suis un coach qui joue en 4-3-3. Si je n'ai pas les joueurs adaptés, ce n'est pas grave. Au mercato, on prendra des joueurs qui peuvent jouer en 4-3-3.
Après,
mais moi, je ne vais pas me réadapter en 3-5-2.
Je pense que tactiquement, il essaie de changer par rapport aux recrues aussi, peut-être, je ne sais pas.
Non, mais c'est... Non, il a essayé de changer par... En fait, c'est le bord olympien qui s'est adapté selon ses demandes à lui.
Ah, d'accord.
Qui ont décidé de prendre des joueurs qui peuvent jouer en 4-3-3 parce que lui, c'est un acharné du 4-3-3. T'as des joueurs qui peuvent jouer qu'en 3-5-2. Joue en 3-5-2. Enfin, Gasset, quand il revient, là, il réinvente pas le football. Hein. Il fait rien d'extraordinaire. C'est pas Mourinho, c'est pas Klopp, c'est pas Guardiola. Il fait rien de fou. Il a juste mis des joueurs qui jouent à leur poste. Il leur fait quelques petits câlins, des petits bisous. Il les appelle mon fils par-ci par-là. Et visiblement, ça a l'air
c'est
de marcher.
C'est ce qu'il leur fallait, en tout cas, surtout à Klose ces derniers temps. Je pense que ça va
non,
lui
mais
faire
c'est
du bien.
Un peu de confiance, un peu de câlins, de bisous. Comme il le disait Sébastien Haller chez nos confrères de l'équipe, c'est un peu le papy de l'équipe Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, ça n'avait pas été très bien perçu parce qu'on disait que c'était un peu réducteur de dire ça d'un homme, mais c'est un peu ça, c'est un peu le papy de l'équipe.
Oui, on l'a vu même comparé à Joe Biden, même.
Ouais, ça c'est. C'était honteux d'ailleurs.
Il a ri jaune un peu quand il a entendu ça, mais il est content de ses performances, c'est le plus important.
Et ça se passe bien et tant mieux pour l'OM.
C'est presque logique que Marseille arrive en 3-5-2. Ça faisait 2 ans avec Sampaoli et Tudor qui jouait comme ça, et forcément une équipe que tu remets dans son dispositif qu'elle connaît, ça avance mieux.
Franchement, je pense que j'aurais pu faire le taf à l'OM.
C'est le système qui est adapté pour Marseille.
Tu le mets en 3-5-2, t'envoies les adjoints faire le travail, t'as rien à faire.
Non, mais après, je pense qu'aussi psychologiquement, il a dû avoir quand même un peu.
Ouais, il a beaucoup discuté.
Il a dû avoir du travail quand même.
Après, il y a quand même beaucoup de discussions depuis le début de la saison à l'OM. Je sais pas ce qu'il y a plus dire de spécial dans cette discussion entre Gasset et ses hommes, mais ça tourne en rond quand même depuis un certain moment à l'OM. Il y a eu je ne sais combien de réunions entre Gattuso, Longoria, les joueurs qui demandaient de se bouger avec les supporters et tout. Bon, les discussions, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, il faut agir sur le terrain.
Mais après, il y a un moment où tu prends conscience. On change une fois de coach, 2 fois de coach, 3 fois de coach. Les gars, ils doivent se dire, c'est plus le coach, c'est nous le problème. Je pense qu'il y a même le fait de beaucoup changer de coach. Oui. Eux-mêmes, à un moment, ils se sont remis en question. Ils se sont dit, bon, les gars.
Bah, bizarrement, c'est parce que je pense que les joueurs aujourd'hui qui sont sous contrat de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas s'ils se sentent réellement impliqués sur la durée avec le club. Hein. On le voit à chaque mercato, il y a des transferts à l'Olympique de Marseille, c'est assez affolant même.
Bah, Renan Lodi, hein.
Renan Lodi, il est arrivé à Marseille 6 mois peut-être, il arrive en août, il me semble.
Il
repart en décembre.
Ouais, mais c'est lui qui veut partir.
Bah, apparemment, il a quadruplé son salaire, bon, je sais
oui,
pas si
là,
ça se refuse.
Oui, c'est lui qui veut partir, Mehdi Benatia l'explique très bien. Il vient dans le bureau, il dit je veux partir. Gattuso, il dit je veux pas d'un joueur pas impliqué, ce qui est logique. Un gars, on lui propose 4 fois son salaire. Ah, franchement, mon Paris FM, RTL, il me propose 4 fois mon salaire, pas sûr que vous me voyez là la semaine prochaine, les mecs.
Ça en dit long quand même sur la mentalité des joueurs recrutés. On sent que c'est pas des projets qui sont faits sur le long terme, mais c'est à court terme à chaque fois.
Gars,
et c'est pareil pour les coachs.
Attendez qu'on vous propose 4 fois votre salaire quand même.
Non mais c'est
non,
pas
mais
la question. C'est que
c'est pas...
il arrive à Marseille, en disant je veux marquer l'histoire de ce club.
Ouais, mais on te propose 4 fois plus derrière.
D'accord.
Non, mais c'est normal que ça change.
Non mais vous parlez comme s'il était payé au SMIC à Marseille.
Quand on est footballeur, je pense qu'il y en a beaucoup. On les a vus refuser des contrats beaucoup plus impressionnants que ça, et parce qu'ils avaient l'amour de ce football entre guillemets, et ils voulaient rester attachés à leur club et gagner des trophées en Europe en tout cas, et vouloir faire quelque chose, en tout cas ne pas partir après 6 mois en tout
mais
cas.
Tu le dis là, tu es des gens attachés, lui il est venu depuis 6 mois, il a 26 ans, il est en galère dans son truc, il voit où on est dans un club où frère ça peut aller brûler des cypresses le mat, ça se réveille, ça va brûler la commanderie, on te propose 4 fois plus au soleil, dans un autre avec un championnat attractif, parce que là il part pas au fin fond de la Russie, il part dans un championnat où t'as des joueurs comme Cristiano Ronaldo etc.
Bah attractif, ça dépend pour qui hein. Pour Jordan Anderson je pense pas que ce soit
il y a beaucoup de
joueurs pas
qui
très bien passé finalement.
Il reviendra peut-être dans 6 mois alors.
Non, je suis pas du même avis que toi. Dès l'instant qu'il signe un contrat, il vient jouer pour un club comme Marseille.
Non, mais
il se doit d'avoir au moins le minimum d'éthique quand même, de respecter Marseille.
Bah, il a fait de mal. Hein,
ouais, mais à un moment donné.
Sur des grands mots, il a pas manqué d'éthique.
Ouais,
il est juste parti.
Ouais, mais quand même, après, quand tu demandes à partir et tout ça, il y a les données du contrat. Je sais pas si dans un contrat c'était possible qu'il parte avant ou pas. On n'a pas toutes. On n'a pas tous les éléments, tous les détails du contrat, mais normalement...
On n'a pas toutes les infos, mais du moins, on sait qu'il est parti pour une grosse somme d'argent. Ouais. On va enchaîner avec le 30 secondes chrono et on va commencer avec Quentin. C'est parti.
Alors moi, le fait majeur du week-end, la victoire de Monaco à Lens, le gros match du week-end en Ligue 1, la victoire de l'ASM qui permet de remonter sur le podium, un match comme on les aime en Ligue 1, un match avec des buts, donc ce que j'ai retenu de ce week-end.
Ok, très bien. Quelqu'un qui veut réagir? Je pense qu'on a tous vu une belle affiche, un beau match.
Faudrait que Balogun arrête de tirer les pénaltys du côté de Monaco.
C'est exactement
parce
ce que j'allais dire.
C'est plus possible.
4 ratés sur les 5 derniers, je
ouais,
crois.
Ouais, c'est ça. Dont 1 en Coupe de France.
Et dont 2 dans un seul match. Et ils avaient perdu le match d'ailleurs à cause de ces 2 pénaltys ratés.
Faudrait faire un duel Balogun-Lloris pour voir s'il y en a qui est capable de l'arrêter ou pas.
Lloris qui a encore encaissé un pénalty ce week-end en MLS. Contre Seattle.
On va laisser Loris au MLS avec sa belle petite retraite. Oui, tellement gratuit. Bah, Brahima, c'est parti pour le Trump chrono.
Alors moi, je voulais parler de Liverpool qui a remporté son 8e... Enfin, Jurgen Klopp qui a remporté son 8e trophée avec Liverpool. C'était un beau match face à Chelsea en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. C'était un beau match avec des temps forts de chaque côté. Et je voulais souligner la performance de Virgil van Dijk qui est toujours au top, et comme il le dit lui-même, il pensait que j'étais mort, mais il est toujours présent, et excellent match de sa part, et bravo à Liverpool pour ce 8e trophée sous l'ère Jurgen Klopp, qui va beaucoup manquer à cette équipe, je pense, quel que soit son remplaçant.
Ouais, je pense qu'on n'a pas grand-chose à ajouter là-dessus, hein. On a vu Van Dijk même qui avait marqué déjà un premier but, dans un premier temps refusé, et on l'a vu récidiver après la 118e minute, Liverpool avec Jurgen Klopp. Moi, je pense qu'on a vraiment vu, en plus, on a vu des jeunes, on a vu pas mal de jeunes rentrer sur le terrain et apporter quand même, malgré le nombre de blessures qu'il y a à Liverpool, je pense qu'ils ont quand même fait un bon...
Beaucoup d'occasions loupées du côté de Chelsea aussi. Hein,
parce un peu des deux côtés. Je ne sais pas si c'est des occasions loupées ou si c'est un très bon gardien. Moi, je pense plutôt que c'est un très bon gardien de l'autre côté.
Mais... faut les mettre au fond. Enfin, Chelsea, on sait qu'ils ont un problème de réalisme depuis le début de la saison. Et bon, dans un match comme ça,
bien évidemment,
ça se paye. Dissasi, il a le but ouvert à un moment. Je sais pas ce qu'il fait avec son genou, mais bon, c'est des trucs que tu peux pas faire.
Ouais. Sterling aussi, hein, qui contrôle. Qui peut, voilà.
Ah, oui, Jackson, un tas d'occases. Oui, Gallagher, 2 occases aussi.
Mais... Oui, non, mais le gardien aussi, il a sorti. Une performance.
Mais Jackson, moi, je sais pas, c'est quel critère Chelsea prend cet attaquant. Mais je comprends pas, parce que là. C'est vraiment aux grands attaquants que Chelsea a l'habitude d'avoir. Oui. Jackson, il est à côté de la plaque.
Okay. Cheikh Kenza, enchaîne avec ton 30 secondes chrono.
Hein, bon, moi, 30 secondes chrono, c'est Luka Modric vraiment face à Séville qui rentre et qui sort encore un très bon match, qui montre que malgré l'âge, il peut prétendre être titulaire et tout ça, et qu'il a les qualités vraiment. Et j'ai comme l'impression qu'il est plus jeune même que les jeunes d'aujourd'hui. C'est un très très bon joueur, moi, c'est mon fer marquant.
Okay. Merci Cheikh Kenza. Quelque chose à redire.
Excellent joueur.
Excellent joueur.
Excellent joueur.
Je trouve un peu sur le Ballon d'Or. Je trouve ça. Moi, ça me choque parfois qu'on ne le mette pas dans la discussion avec des Xavi ou Iniesta. Il y a même des gens qui osent mettre Pirlo devant lui. Moi, je pense qu'il a dépassé Pirlo.
Il a dépassé Pirlo.
Et je pense que vraiment, ça se discute entre Xavi et Iniesta. Et je suis pas loin de penser qu'il est meilleur que les deux.
Moi, je pense que.
Peut-être pas qu'Iniesta, mais.
C'est mon avis, en tout cas. Moi, je pense qu'il est meilleur que les deux.
Il est meilleur que les deux parce que là, ça fait combien d'années qu'on n'a pas aimé le terrain. On n'a pas aimé le terrain qui gagne le Ballon d'Or et tout ça. Et partout, il a prouvé. Modric, c'est pas le joueur d'un seul club. Partout où il est passé, il a fait l'unanimité, que ce soit à Dynamo, que ce soit du côté de Tottenham Hotspur. Et là, maintenant, au Real de Madrid, depuis plus de 10 ans, il est là. Et il continue de s'affirmer tout le temps des prestations. Même quand Modric, il n'est pas bien, il nous sort un match normal. Même dans ses mauvais jours, tu verras un Modric vraiment qui est au-dessus des autres. Quoi. C'est un top joueur pour moi.
C'est un top joueur, ça, c'est sûr. Abou, pour ton 30 secondes chrono, c'est parti.
Moi, mon 30 secondes chrono, c'est un peu un coup de gueule contre les journalistes de football français. On le disait tout à l'heure, il y a Jean-Louis Gasset hier qu'on questionne sur son âge avec Thibault Leroy. Thibault Leroy, qui pour le coup, moi j'aime bien, je pousse qu'il pose des questions pertinentes. Mais voilà, la question, elle était honteuse. De la même manière que lorsqu'on demande à un joueur du TFC, ouais, vous pensez quoi de la non-prolongation de Kylian Mbappé? De la même manière qu'on va demander à Ibrahima Konaté de l'autre côté, d'outre-Manche, qu'est-ce que vous pensez de la non-prolongation de Kylian Mbappé? Les joueurs ne sont pas là pour répondre à ce genre de questions. Donc, messieurs les journalistes, soyez plus consciencieux dans vos questions.
Ça a le mérite d'être clair.
Très clair. Totalement d'accord.
On partage un peu tous le même avis.
Ouais, hein. C'est des choses qui n'ont pas leur place dans certains lieux. Enfin, on parle de Mbappé au PSG, pas besoin d'en parler dans chaque club français. Hein.
Et on critique beaucoup les journalistes africains pour leurs questions. Moi, pour le coup, qui étais à la CAN, j'ai jamais entendu sur mes 3 semaines des questions aussi débiles que celles que j'ai entendues depuis 2 semaines que je suis arrivé en France. Non, pour le coup, on critique beaucoup les journalistes africains sur les questions qu'ils posent, etc. Moi, j'ai fait une quinzaine de conférences de presse là-bas en Côte d'Ivoire et j'ai pas entendu de questions aussi effarantes. Enfin, je trouve que ça n'a pas sa place ici.
Après, le souci, c'est que je pense qu'ils pensent plus à forcément être pertinents dans leurs questions, mais ils cherchent à faire du buzz, en fait, tout simplement.
Ouais. C'est bien dommage.
C'est ce qui est dommage.
Après, il y a pas mal de questions qui n'ont pas lieu d'être. Je ne sais pas vraiment, par moment, je ne sais pas s'ils veulent vraiment vendre, parce que c'est ça aussi le rôle des journalistes. Ils veulent tellement vendre et tellement aussi se donner aussi, je ne sais pas, une certaine image. Normalement, on n'a pas lieu de poser cette question à Ibrahima Konaté, qui est de l'autre côté de la Manche, pour lui parler de Kylian Mbappé. Il n'en a rien à foutre.
Je pense aussi. Il y a notre cher Stéphane du Quotidien du Sport qui nous a rejoint avec Philippe.
Oui,
voilà, salut Philippe, comment ça va ?
Ça va, ça va. J'ai ramené mes invités, donc je vais pouvoir parler foot maintenant.
Exactement, on espère en tout cas. Et comment ça va, Stéphane ?
Ça va très bien, ça va très bien. Je vous écoute depuis un quart d'heure.
T'es prêt pour ton 30 secondes chrono ?
Ouais, si vous voulez, oui, je pense que j'ai tout entendu. Oui, bah, moi j'en avais un, on en parlait encore tout à l'heure avec Philippe dans son émission. C'est le lance, quoi, en fait. Moi, je suis... est-ce que c'est un plafond de verre ? Est-ce que c'est Francaise n'est autre qu'un Christophe Galtier en puissance ? Je ne sais pas, mais moi, c'est quand même urgent, parce qu'on parle vite fait des... Quoi, ils ont gâché la semaine européenne, tout simplement. Il y aurait eu que des victoires, mais 2-0 contre une équipe quand même assez faible comme Fribourg. Je trouve ça un peu grave. C'est ça qui m'a marqué cette semaine, quoi.
On est revenu là-dessus. Hein. Je pense qu'on partage un peu tous le même avis. Hein. Et on peut, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire. On a un peu tout dit là-dessus. On a fait le tour, en tout cas. On va enchaîner avec le 30 secondes chrono de Philippe.
Oui, bah moi, je voudrais avoir une pensée pour un monsieur qu'on a bien connu avec Stéphane. C'est Arthur Georges, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Entraîneur charismatique avec sa moustache, homme très cultivé. Ça rappelle une belle époque du PSG avec un titre de champion de France, une Coupe de France et plusieurs demi-finale de Coupe d'Europe. Bah, c'était le football d'une certaine époque où le joueur était attaché à son club, l'identité du club. En tout cas, il y a eu de bons souvenirs avec Arthur Georges et on voulait lui rendre un immense hommage ce soir à travers ce 30 secondes.
Merci Philippe et c'est pour cette bel hommage. Ouais.
T'as connu
pour Arthur
genre, hein
bah, ouais. De nom ouais, après peu, je ouais, suis ouais. un peu plus jeune du coup.
Ouais, c'était l'air voilà, Canal+.
Mais de nom.
Tu sais la tête de Comboiré contre le Real de Madrid. Eh ben l'entraîneur c'était Arthur Georges.
En tout cas, on a vu la minute de silence aussi, on a observé au Parc des Princes hein, pour le respect et l'hommage rendu à cet homme. C'est une perte, hein. Oui. C'est une perte pour le football.
Et puis, il avait gagné la Ligue des Champions avec Porto en 87 sur une Majdère qui est restée célèbre. Majdère qui avait marqué de la talonnade.
Qui depuis s'appelle Majdère.
Oui, c'est ça.
Depuis, le geste s'appelle Majdère.
Il avait entraîné le Racing de Paris et Créteil, mais avec beaucoup moins de réussite.
Voilà. On va enchaîner avec plus ou moins, il y en a qui appellent ça une polémique, d'autres un peu moins, autour de Kylian Mbappé. La sortie un peu de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain face à Rennes, ce qu'ils ont montré, Luis Enrique un peu. On va commencer et tout de suite on va prendre l'avis à Stéphane. Stéphane, qu'est-ce que t'en as pensé déjà du match et qu'est-ce que tu penses de tout ça, de la conférence de presse de Luis Enrique qui disait tous les entraîneurs doivent se passer de Mbappé et on doit essayer de jouer sans lui parce qu'on doit préparer la prochaine saison au mieux.
Ouais, bah, déjà oui, j'ai vu ça un peu de loin, ce qu'il a dit. Déjà, c'est complètement ridicule. C'est effectivement, s'il y a une polémique, c'est par les propos de Luis Enrique, parce qu'on doit se préparer sans lui, c'est ridicule, on n'a jamais vu ça. Maintenant, après, moi, où je suis plutôt partisan de ceux qui disent qu'il n'y a pas trop de polémique, dans le sens où moi, ce que j'y vois, c'est pas du tout... Il y avait un titre d'un article de l'équipe qui disait qu'il a été dégradé au niveau de son statut, c'est tout simplement ça. C'est ce que fait Luis Enrique depuis le début, il fait tourner ses joueurs. Moi, je suis convaincu qu'il a un petit papier ou un ordinateur où il marque tous les temps de jeu de tous ses joueurs et qu'il veut les mettre. Avant ce match-là, il met Zaïre Emery sur le banc. Après avoir sorti Mbappé, il sort Ousmane Dembélé. Donc, on ne peut pas dire qu'il a sorti Mbappé juste pour lui montrer qu'il n'était pas content et tout. Simplement, bah, peut-être justement, c'est avant que ce n'était pas normal. Quoi, vous, ça ne vous heurtait pas. Moi, ça me heurtait de voir des matchs comme Orléans, d'autres matchs où Kylian Mbappé restait toujours sur le terrain. Je pense qu'il aurait dû sortir beaucoup plus tôt parce que on a dit, je termine juste là-dessus, on a dit que c'était parce qu'il avait été mauvais, mais on est tous d'accord, quoi, tous ceux qui ont vu le match, qui était d'ailleurs pas un bon, pas un très très mauvais match du Paris Saint-Germain, qu'il y a, il y a des joueurs qui étaient larges, au moins la moitié de l'équipe était encore plus mauvais que lui. Je te parle de Danilo, oui. Je te parle de le, lui il est sorti là, le Coréen il est sorti, Hakimi était pas fameux. Quoi, bref, je ne vais pas passer tout le monde en revue. Vitinha et Fabian Ruiz, c'était une catastrophe. Barcola, il était à côté de ses pompes.
Après, donc, après Stéphane, on sait bien. Moi, je pense que c'est un peu un camouflage hein, de faire sortir ou de faire un petit turnover et camoufler et sortir Mbappé à l'heure de jeu. Tu perds 1-0 demain contre Rennes à domicile. Tu sors Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Quand même, il y a des questions à se poser hein, puisqu'on voit ouais, qu'ils jouent contre même Orléans, comme tu l'as si bien cité. Ils peuvent gagner 5-0 à la mi-temps. Kylian Mbappé va rester sur le terrain. Alors là, jouer à domicile, perdre 1-0, même si c'est en championnat, parce que moi je pense qu'à partir du moment où le match est plié en Coupe de France, il y a déjà 5-0 à la mi-temps, il n'y a plus besoin d'appuyer, il n'y a plus besoin d'Mbappé à ce moment-là. Et là, on est en train de perdre contre Rennes. Faire un choix, parce qu'on voit bien, même si Mbappé, comme tu l'as si bien dit, hein, il y avait pas mal de joueurs qui étaient à côté de ses pompes, et même quand Mbappé n'est pas dans ses états, il réussit à être décisif quand même.
Exactement. Là, je suis 200% d'accord avec toi, mais simplement, moi, je lis ça. Moi personnellement, d'un point de vue personnel, je regardais le match, la sortie qui m'a heurté, qui m'a embêté, qui m'a fait rager, c'est la sortie d'Ousmane Dembélé plus que celle d'Mbappé pour gagner le match hein, je parle hein.
Oui,
quand j'avais
sûr.
Envie de gagner ce match, donc il fait ça. Alors effectivement, peut-être qu'il va au bout de son idée. Moi je pense que après on peut débattre beaucoup sur Luis Enrique, ce que fait Luis Enrique, ce qu'il fait pas. Il aurait pu rentrer à la mi-temps par exemple, Zaïre Emery, il est rentré je crois 20 minutes, il aurait pu jouer plus. Il est je pense qu'il a strictement quasiment rien à foutre du résultat de ce match, quoi. Il a 10 points d'avance en Ligue 1. Je veux dire, je pense qu'il en a rien à foutre, quoi. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être performant en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'il va y arriver, peut-être qu'il va pas y arriver. Et quelque part, moi, par contre, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, ça, c'est le genre de truc qu'il faut dire. Mais je serais pas étonné, par exemple. Je pense qu'il a préservé Mbappé en plaçant à Nantes et là, qui est sorti en fin de match pour enchaîner Monaco et la Real Sociedad. Mais je ne serais même pas très étonné que Mbappé soit sur le banc à Monaco. Effectivement, tu diras, tu as ton meilleur joueur, tu le mets sur le banc, donc ça veut dire que tu n'as pas envie de gagner. Ben, moi, je vais dire non, il n'a pas forcément envie de gagner, quoi. Ce n'est pas grave s'il ne gagne pas ce match-là. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner celui d'après.
On se rappelle que Luis Enrique disait que tous les matchs étaient importants et qu'il voulait gagner tous les matchs. Alors, un match à domicile de cette envergure-là, je pense que c'est difficile de se dire quand même qu'ils s'en foutaient du résultat. Philippe, tu peux nous donner ton avis?
Oui, surtout quand tu marques 21 buts comme Mbappé dans une saison. Hein. Effectivement, quand tu es mené 1-0, que c'est souvent la Mbappé-dépendance, c'est quand même étonnant de sortir ce joueur à ce moment-là du match. Quoi. Voilà. Encore qu'il soit remplaçant au début du match contre Monaco, bon ok, mais là, il y a un score à aller chercher. Il marque 21 buts dans une saison, meilleur buteur du PSG, souvent décisif. Oui, effectivement, c'est un choix un petit peu bizarre quand même. Hein.
Brahima, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je pense qu'il a tout dit en conférence de presse, Luis Enrique. Il va apprendre à jouer sans Mbappé, tout simplement, ouais, par rapport à ce qu'il...
Totalement raison.
Par rapport à ce qui va se passer déjà à la saison par rapport à la saison prochaine. Maintenant, moi, personnellement, ce que je lui reproche, c'est que la saison, elle n'est pas terminée, en fait, qu'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints du PSG. Le PSG est encore en course en Ligue des Champions. En championnat, même s'il y a 10 points d'avance, rien ne nous dit que c'est fait. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, même si on voit que les adversaires du PSG ne sont pas forcément...
On sait ce qui peut se passer.
Les adversaires ne sont pas forcément à la hauteur, mais en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est toujours en lice. Et je ne sais pas,
moi, c'est pas ce qu'il compte faire, Louis Saint-Germain. Il fait ça pour la Ligue des Champions. Il est obsédé par ça. Moi, je ne crois pas une
chose. Non, mais Mbappé peut mal le prendre et décider de lever le pied en Ligue des Champions, du coup. Il sera à Madrid l'année prochaine. On ne sait pas ce qui peut se passer, ça reste un être humain.
D'où un petit clin d'œil, hélas, quand je te disais, et je maintiens, je le redis, il l'a fait. Mais que je redis que c'est une énorme connerie d'avoir annoncé son départ du club trop tôt, beaucoup trop tôt. Voilà.
Moi, je pense que avec tout ce qui s'est passé dernièrement, l'annoncer, c'est même ce que Luis Enrique aussi l'a dit dernièrement. On a vu en tout cas des articles sortir et Luis Enrique qui dit qu'il n'a pas aimé que Mbappé dise qu'il parte en fin de saison. Mais moi, je pense qu'un joueur de cette envergure-là doit annoncer assez tôt qu'il part. On l'a vu il y a à peu près 2 ans, comment c'était compliqué, comment ça s'est joué à la dernière seconde. Ça entache l'image du PSG et c'est même problématique pour tous les joueurs. Moi, je pense pense, pour toute l'équipe. Hein. Pour toute l'équipe, ça handicape toute l'équipe. Parce que quand tu as un joueur majeur comme ça, qui est aussi important pour l'effectif, et que tu ne sais pas s'il va rester ou non, on ne sait pas comment on va le remplacer ou non, je pense que c'est important quand même de le dire au plus tôt. Et là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne période. Il l'aurait dit à la fin ou là, maintenant. Ça reste compliqué quand même.
Si je peux reprendre la parole, Luis Enrique ne va pas nous faire croire qu'au moment où il signe au Paris Saint-Germain, il pense qu'il va voir Mbappé sur les deux saisons à venir. Il savait très bien qu'il n'allait pas rester. Et d'où certains recrutements. Il y avait un doute, mais on ne va pas se mentir. S'il n'a pas prolongé, on savait très bien qu'il n'allait pas rester. Maintenant, après, moi, ce que je lui reproche, c'est tout simplement, je pense qu'il peut... Enfin, je ne sais pas, c'est quand même des professionnels. Mbappé, il est encore sous contrat jusqu'en juin. Fais-le jouer. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Je ne comprends pas la gestion de Mbappé. Surtout qu'il a l'air de plutôt mal le prendre. Donc,
Il y a
des échéances en Ligue des Champions, je ne comprends pas.
Okay. Quentin,
ce que je ne comprends pas, c'est que...
Attends, Stéphane, s'il te plaît. Quentin, deux minutes. On te reprend, Stéphane.
Là, Mbappé, son match, il n'est pas bon. Donc, s'il n'est pas bon, c'est un joueur comme les autres, tu le fais sortir. Certes, on n'a pas l'habitude de voir Mbappé sortir à la 65e. Ok, même dans ses mauvais matchs, il est capable de marquer un but, mais je comprends pas la polémique autour de ça. Il devrait même pas y avoir de polémique. S'il veut sortir Mbappé, non. Mbappé il sort. Et...
Attends, non, s'il te plaît. Abou, oui.
Elle n'est pas là la polémique, elle est là toute la nuance. Mbappé c'est un joueur comme un autre, mais c'est un joueur comme un autre que tu n'as jamais traité comme un joueur comme un autre. Ouais. C'est la première fois de ta vie que tu décides de traiter Mbappé comme un joueur comme un autre. Et pourquoi tu le fais? Parce que... Une semaine avant, il a annoncé son départ au Real Madrid.
Oui, totalement.
Et pourquoi c'est ça la preuve qu'il le fait? Parce que moi, je suis pas dans sa tête. Mais en conférence de presse, il dit oh, il va falloir s'habituer à jouer maintenant sans Kylian Mbappé. Va falloir pour les années futures à jouer comme Kylian Mbappé. Donc, comme il le disait Stéphane, tu le fais jouer contre Orléans, tu le fais jouer 90 minutes contre des R3 en Coupe de France. Bah, contre Rennes, tu dois continuer à le faire jouer. Si la technique, la tactique de
surtout quand tu es mené 1-0.
Bah oui, si la tactique de Luis Enrique, c'était dès le début de la saison, à chaque fois qu'Mbappé il est mauvais, de le sortir, là, ça poserait pas question et ça ferait pas polémique. Mais quand cette tactique, elle intervient une semaine après que le joueur aurait annoncé à son club qu'il part et qu'en conférence de presse derrière, toi-même, t'alimentes le truc en disant va falloir s'habituer à jouer sans lui, non, c'est compliqué. Je rejoins Ibrahim. Enfin, la saison est finie le 30 juin. Et l'année prochaine, tu sais pas de quoi elle est faite. Tu sais même pas si les autres joueurs ils seront là.
Mais oui.
Donc, continue, joue avec tes forces optimum. Va chercher ce que tu peux aller chercher.
Moi, je pense que, comme tu l'as si bien dit, Abou, hein, ça arrive un peu dans un timing. Moi, ça me fait peur, honnêtement, parce que demain, je pourrais me dire, en Ligue des Champions, il essaye de faire aussi un turnover. Moi, ça me fait peur. Mais Stéphane, tu peux nous dire, toi, ce que tu penses. En tout cas, du moins, demain, ça serait pas choquant pour toi s'il le fait sortir en Ligue des Champions ou même si Mbappé traîne des pieds et il n'est pas content et que ça ramène... Pour toi, ça ne peut pas ramener une mauvaise ambiance dans le vestiaire
Attention, moi, faut pas comprendre l'inverse que je dis. Moi, je vais brûler une poupée à son effigie, moi, s'il le sort en Ligue des Champions, hein, même s'il fait un match merdique. Hein, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ce que je dis simplement, mais vous croyez, est-ce qu'il y a une personne dans le studio qui croit une seule seconde que Enrique, il a dit il sort Mbappé parce qu'il faudra jouer sans lui? Donc Mbappé, Enrique fait plus jamais jouer Carlos Soler, qu'il a mis à la place de Mukiele, qu'ils ont empêché de partir au Bayern Munich. Il fait plus jamais jouer je sais plus quel autre joueur qui va sûrement partir. C'est simplement parce que Enrique, effectivement, c'est le mauvais côté d'Enrique, peut-être des grands entraîneurs, puisque Tuchel, il avait aussi des relents un petit peu comme ça de temps en temps, de dire, d'envoyer un pied de nez aux journalistes, de dire, je me fous de votre gueule, quoi. Je me fous de votre gueule. Ah bah oui, on va bien devoir jouer sans lui, donc et à ce moment-là, il a qu'à plus jouer du tout de la saison.
Mais est-ce maintenant, que ça n'est pas aussi... Oui. Est-ce que ça n'est pas aussi, excuse-moi Stéphane, est-ce que ça n'est pas aussi d'alimenter la polémique, parce qu'avec une sortie médiatique comme ça, je pense qu'il savait que ça allait prendre encore un peu plus d'engouement. Chez Kenza, tu peux nous dire un peu quelques mots là-dessus?
Ouais, moi je pense que Luis Enrique, déjà en interne, il ne prépare pas l'après Mbappé. Parce que là, sa communication, elle en dit beaucoup là-dessus. Parce que comment lui, un professionnel, Luis Enrique, ancien sélectionneur de la Aurora, mais un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, peut se permettre en plein championnat, c'est-à-dire le PSG a plusieurs échéances. Le PSG, ils sont sur tous les tableaux. Comment il peut se permettre de dire que non, qu'il va falloir qu'on s'habitue à jouer sans Kylian Mbappé? Pourtant, là, le PSG, c'est Mbappé, qu'on le veuille ou pas, c'est Mbappé. C'est Mbappé qui peut infiler plus de 20 buts par saison. C'est Mbappé qui a des stats vraiment stratosphériques. c'est Mbappé qui marche aussi. C'est la Ligue 1 depuis pas mal d'années. Même avec l'avenue de Messi et tout ça, ça n'a pas grand chose, ça n'a pas changé grand-chose. Mbappé a toujours été, qu'on le veuille ou pas, le fer de lance de cette équipe, de cette équipe parisienne. Donc, à un moment donné, sa com, elle n'est pas bien. Je ne sais pas vraiment si en interne, il se fera gronder. Mais là, vraiment, je pense que là, il a agi comme un débutant, comme un entraîneur de régional, même de district, dans sa communication. Et il s'est très mal fait pour Luis Enrique.
Ça pourrait même se poser... Merci Stéphane. On se demande même, est-ce que ça pourrait pas être directement de la part de la direction? Est-ce que ça serait pas des décisions de la part de la direction pour faire pression même? On pourrait même se poser cette question. Quentin, qu'est-ce que...
Non, je pense pas que c'est la direction. Je pense que ça vient de Luis Enrique. Alors certes, ça alimente cette polémique qui avait pas besoin d'être plus alimentée, et c'est du Luis Enrique tout craché. Mais Mbappé, c'est la réalité. Il va partir l'année prochaine. Va falloir s'habituer à jouer sans lui, mais pour autant, je me dis Mbappé, ouais, mais... et ça, j'ai aucun doute sur ça, sur le fait que jusqu'au dernier jour de son contrat avec le PSG, il va donner 100% pour le club. C'est-à-dire que si Luis Enrique lui dit tu vas jouer 118 minutes en 8e de finale de Ligue des Champions en prolongation, il va les jouer. Mbappé, il est sorti la 65e, t'as pas vu un joueur qui était en train de tirer la gueule ou quoi. Il est conscient, on a déjà vu des sorties de Mbappé avec la gueule, qui ne sert même pas la main à son entraîneur. Là, Mbappé, il est conscient de sa situation. Il est peut-être aussi conscient de son match, même si je ne pense pas que c'est le facteur premier. Mais voilà, Mbappé, il va donner à 100% pour le club jusqu'au dernier moment. Enrique, il est conscient de cela. Il est aussi conscient que l'année prochaine, Mbappé ne sera plus là. Et bah, la sortie est maladroite, mais c'est la réalité des choses, en fait. Donc, voilà.
Ouais, mais pas quand tu mènes 1-0, quoi. Voilà. Qu'il le fasse pas jouer à une entame de match, par exemple, la semaine prochaine, journée de championnat, il le fait pas jouer dès le début du match parce qu'il faut préparer la saison. Bon, c'est un argument qui tient, mais quand tu es mené 1-0, quand même.
En sachant
que c'est le joueur phare du club qui marque 21 buts.
En sachant que le match d'avant, il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire, il le fait rentrer et qui est décisif.
Oui, c'est ça. Mais à la rigueur, il ne soit pas titulaire au début. Bon, il veut commencer à préparer le truc. Mais sortir, ils auraient mené 3-0. Bon, c'est un choix qui est légitime. Peut-être, après tout. Mais là, 1-0, il y a un score à aller chercher face à une bonne équipe comme Rennes, quand même. Et c'est ça qui est quand même assez surprenant.
Mais en fait, on a juste été trop habitué au fait que, et c'est normal parce que Mbappé c'est un joueur tout en haut, mais au fait que Mbappé était intouchable, ça fait 3 ans il est intouchable.
C'est eux qui nous ont habitués à ça.
Les stats sont pour lui quand même.
D'un côté, c'est normal, enfin c'est OK, il nous a habitué à ça. Mais
t'inquiète pas, l'année prochaine, il va être habitué à sortir un peu plus.
Oui, ben voilà, ça peut lui apprendre.
Là, il vient dans un club où ils vont sortir un peu plus.
Mais je veux dire,
j'ai l'impression qu'au PSG, vraiment, tout a été fait vraiment pour Mbappé. Et à un moment donné, il a pris le milieu, il a pris la grosse tête. Donc, on a comme l'impression que Luis Enrique aussi dans sa com, on a l'impression qu'il veut ramener Mbappé sur terre en disant que tu le mets si par le passé, il était, mais moi, à n'importe quel moment du match, je peux te faire sortir. Mais juste, c'est le message qui est véhiculé après qui n'est pas bien. C'est un entraîneur, à n'importe quel moment du match, s'il trouve que Mbappé n'est plus apte selon lui, il trouve que Mbappé n'est pas bon sur le terrain, il peut le faire sortir. Ça, il n'y a pas de souci. C'est l'entraîneur, c'est lui qui fait son équipe, c'est lui qui met quel joueur qu'il veut. Ça, personne ne va l'en vouloir ici autour de cette table ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, mais à un moment donné, il ne se doit pas de dire que non, qu'il faut qu'on s'habitue à jouer sans Mbappé. Ça, par contre, c'est pas du tout professionnel. Et il va un peu trop. Je pense qu'il va un peu trop de ce fait. C'est pas normal pour un Luis Enrique avec un PSG vraiment depuis combien d'années qui cherche cette Ligue des Champions. Et donc je pense qu'il a intérêt à se remettre en cause au plus vite, parce que là les supporters parisiens, ils ont pas du tout apprécié ça.
Merci chez Kenza. Stéphane, toi, qu'est-ce que...
Moi je pense que c'est parfait ce qui a été dit là, c'est parfait quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que pour moi il devrait même pas y avoir de polémique. C'est comme si on discutait pendant une demi-heure de savoir s'il fallait mettre Beraldo arrière-gauche et qu'il a mis Beraldo à la place de Lucas Hernandez. C'est des choix qu'il fait. Maintenant, c'est clair qu'il y a un petit message peut-être aussi de Luis Enrique qui veut dire par là, moi, mon coaching habituel depuis le début de la saison aurait été de le sortir beaucoup plus souvent que je l'ai sorti. Maintenant, on m'a demandé où on m'a fait comprendre qu'il fallait nous faire ces 4 volontés parce qu'on avait envie qu'il prolonge. Maintenant, on sait qu'il ne prolonge pas, donc je coach comme j'ai l'habitude de coacher. Et après, effectivement, la communication, elle est dramatique.
Et pour toi, c'est la bonne solution, Stéphane ?
De quoi ? Non, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Moi, je ne dis pas du tout que c'est la bonne solution. Je ne dis pas du tout qu'il fallait le sortir. Genre, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de l'entraîneur, mais je dis que que pour moi, il n'y a pas trop de polémique dans le sens où, de toute façon, si ça avait été un joueur, si on ne lui avait pas donné des consignes et tout, les espèces de consignes de relents de cette direction parisienne, là, pour Neymar, pour Messi, qui flingue tous les joueurs en les mettant au statut de pro, de gros stars qui font ce qu'ils veulent, lui, ce n'est pas son truc, à Enrique. Alors maintenant qu'il sait que Mbappé est parti, il va faire exactement la même chose avec tous ses joueurs. Et encore une fois, j'insiste juste pour dire que cinq minutes après, il sort, ou en même temps, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, le meilleur joueur du match, Ousmane Dembélé. Donc ça veut dire que ce n'était absolument pas une punition par rapport au jeu de Kylian Mbappé.
Mais moi, je pense que c'est pour camoufler, justement, qu'il fait tous ces turnovers. Moi, je pense que c'est vraiment pour camoufler un peu. Hein. Brahima, oui
tu... moi, je voulais plus parler. Bah, il avait dit en conférence de presse, comme je l'ai dit précédemment, qu'il allait falloir s'adapter à jouer sans Mbappé. Et bah pour l'instant, le jeu sans Mbappé, il fait peur. Hein. Sincèrement, de ce que j'ai vu à Nantes ou même avec, face à Rennes hier, ça fait peur.
Est-ce que le jeu avec Mbappé fait bien plus rêver en ce moment?
Non, pas du tout. Le jeu avec Mbappé, ça fait pas rêver.
Ça fait pas rêver, mais quand même,
à un moment donné, t'es sûr qu'il va enfiler des buts,
s'il te plaît.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Quentin, ça fait peut-être pas rêver, mais au moins, quand t'es dans la surface adverse, tu sais que tu peux marquer un but. Alors que Colomoigny, je suis même pas sûr qu'il cadre la frappe, là. Donc, le problème, il est là.
Ibrahim est gratuit avec les gens aujourd'hui. Il est très méchant aujourd'hui. Cheikh Kenza, du coup.
Ouais, moi, le jeu avec Mbappé, c'est pas séduisant, c'est pas un jeu éblouissant, mais quand même, on sait que Mbappé, c'est quelqu'un qui est très réaliste. C'est quelqu'un qui a pas besoin de 1000 occasions pour faire mieux les filets. Donc, qu'on le veuille ou pas, en ce moment, le PSG, parce que même à Nantes, il essayait de mettre Mbappé sur le banc, ça donnait quoi? Il a fallu encore le retour de Kylian Mbappé. Donc, je pense que depuis l'annonce d'Mbappé, là, j'avais dit ici sur le plateau, si je me souviens très bien, que Mbappé ne devait pas annoncer son départ. Je pense qu'en mi-championnat, comme ça, comme il a fait, je pense que ça aurait été mieux quand il restait 2 journées ou 3 journées pour le faire, parce que là, ça va causer des problèmes en interne. Et Luis Enrique, j'ai comme l'impression que dans sa com, là, on a comme l'impression qu'il va vers un mur. Parce que s'il continue sur cette attitude, à un moment donné, son vestiaire sera décousu. Et quand on n'a pas une équipe soudée, ben, on ne peut qu'aller d'échec en échec. Et c'est ce qui, moi, me fait un peu peur pour le PSG par la suite. Parce que là, sa com, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas, vu que c'est un grand mais club. Donc, il y aura une discussion autour de ça.
À quel moment tu trouves sa com pas bonne vis-à-vis du vestiaire? Au contraire, même tout le vestiaire, peut-être que le vestiaire en a marre de tourner et de voir que Mbappé ne sort jamais. Bah, vis-à-vis du vestiaire, il te fait jouer des mecs, des Carlos Soler. Après, ceux qui ne veulent plus, comme Mukiele, on a appris dernièrement un peu plus de raisons, il les met carrément à l'écart. Mais après, avec tous ces joueurs, il a fait jouer Carlos Soler, il fait jouer Fabian Ruiz, il fait jouer Danilo beaucoup, il fait jouer tous ces joueurs. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, je ne vois pas à quel moment. C'est parce qu'il a dit des conneries, de dire qu'il faut apprendre à jouer sans Mbappé, qui est une énorme connerie, effectivement, ou bêtise, excusez-moi du terme. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'il va mettre un problème dans son vestiaire. Il ne va pas du tout mettre, à mon avis, non, il ne va pas mettre un problème dans son vestiaire. Maintenant, sa communication, effectivement, elle n'est pas bonne. On l'a vu, hein, il y a eu des épisodes, il s'est engueulé avec des journalistes, il ne répond pas vraiment aux questions et tout. Comme peut-être, il y en a qui ont de la chance d'avoir des Guardiola, des Klopp et tout, mais bon, lui, il n'arrive pas à faire ça. Et il est têtu, il a un côté un peu enfantin, effectivement, et où il te dit, même le mec est blessé, je pense, au Real Sociedad, Lucas Hernandez n'est pas apte à 200% de jouer, mais il met Beraldo, mais après on lui pose la question, bah, il dit, ben non, j'ai choisi, il n'y avait aucun problème physique, c'est moi qui ai choisi. Alors si ça se trouve, ce n'est pas exactement ça, mais il dit ça pour s'affirmer, pour dire des trucs. Moi, je le pense.
Mais Stéphane, il y a un truc, quand tu me parles de com, là, c'est le problème Mbappé. Donc, tu t'imagines que s'il n'y a plus Mbappé, le prochain, ça serait qui? Parce que là, c'est un peu ça. Et Luis Enrique, la communication, ce n'est pas son fort, il se doit de travailler. Parce que quand on est un grand entraîneur aussi, par moment, il y a certains mots qu'on ne doit pas placer en conférence de presse. Et comme lui, il en a pour habitude de le faire, tu as dit ce côté un peu enfantin, il a pas mal d'années d'expérience. Là, on ne parle pas de Garcia ou on ne parle pas de Gennaro Gattuso. Là, on te parle de Luis Enrique, l'entraîneur vraiment qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça et aussi un entraîneur aussi qui a entraîné la sélection d'Espagne. Donc, il se doit vraiment d'être professionnel sur tous les aspects pour être un bon coach pour moi. Il se doit aussi d'avoir une communication parfaite. Il se doit d'employer le mot comme il le faut, pas n'importe comment comme il le fait depuis certains temps. Et à force de faire ça, il est capable de se mettre son vestiaire à dos. Même si tu fais jouer des gars, mais à un moment donné, il n'y a pas que jouer au football. Et après, c'est des hommes et ils doivent gérer aussi des égos. Il y a des choses comme ça. Même si là, on sent que vraiment, on n'a pas eu encore des fuites concernant ça. Mais ça, comme vraiment, elle n'est pas bonne. Et quand tu ne sais pas parler, à un moment donné, tu vois, là, tu peux te mettre des gens à dos.
À titre personnel, je trouve qu'on en fait trop. Je pense qu'on tire un peu le bouchon. Il a eu une erreur de... Et je pense même pas que ce soit une erreur de communication quand on connaît Luis Enrique et Philippe et Stéphane le connaissent beaucoup mieux. Je pense pas que ce soit une erreur de communication. Je pense que la communication de Luis Enrique, elle est calculée, elle est stratégique. C'est quelqu'un qui vit aussi un peu pour les caméras. Je pense qu'il sait ce qu'il dit, pourquoi il le dit, comment il le dit et à quel moment il le dit. Après, s'il n'y a pas sa déclaration, il n'y a pas de polémique parce que finalement, en fait, s'il fait juste sortir Mbappé et derrière en conférence de presse, il t'explique que oui, je l'ai fait sortir parce que j'estimais qu'il n'était pas bon, etc. Bon, on va en parler 2-3 minutes, mais ce qui nous a le plus choqué, enfin choqué, c'est un grand mot, mais j'ai pas de mot plus bas là. Je suis un peu limité en vocabulaire là.
Ouais, c'est la phrase employée quoi.
Ouais, mais c'est la phrase derrière, parce que s'il n'y a pas la phrase derrière, il n'y a pas 40 minutes de débat et on remercie Luis Enrique de nous offrir ce débat là.
Mais moi, quand
je pense qu'on en fait un peu trop.
Je suis d'accord. Quand on envoyait le planning de l'émission, j'ai dit pourquoi parler de polémique. C'est pour ça que je suis content d'intervenir là-dessus. Vous vous rappelez tous de la phrase de Luis Enrique, je crois, je ne sais pas si c'était pas à Brest ou quel match, alors qu'il avait fait un triplé Mbappé, où derrière il avait dit je ne suis pas très content, je trouve qu'il ne défend pas assez, et ceci et cela.
Oui, avec un petit sourire en coin de lèvres quand même. Du coup, on s'est peut-être dit que c'était ironique aussi.
Ouais, non, c'était pas perçu comme ironique, puisque Mbappé avait répondu derrière qu'il comprenait tout à fait les demandes de son entraîneur et tout. Mais c'était aussi, bien sûr, de dire que c'était le bon moment pour le dire, parce que c'est bien. Mais il avait quand même dit, c'est bien de se de voir tous ses buts et tout, mais il faut aussi qu'il pense à être plus. D'ailleurs, le jeu de Mbappé a quand même un peu progressé dans ce secteur. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord, on en fait des tonnes. Ouais, il a sorti un joueur, simplement il ne pouvait pas le sortir avant. Pour quelle raison? C'est ça le vrai truc qui serait là si on voulait vraiment creuser. Pourquoi il ne l'a pas sorti? Pourquoi il ne l'a pas? Moi, j'étais devant mon poste, Orléans, je ne comprends pas pourquoi il a joué une heure et demie contre Orléans, par exemple. Je ne comprenais pas.
Pour les stats. Moi, je le comprends. En tout cas, je me dis pour les stats. Oui, Quentin.
Juste pour terminer sur la communication d'Enrique, moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un coach justement. Très serein comme Luis Enrique dans l'approche des matchs. Enfin, je trouve que, enfin, une communication certes qui pique, mais enfin, les médias français ils sont comme ça, ils aiment bien aller chercher la petite bête qui fait mal. Mais
c'est pas les pires les médias français pour faire ça.
Mais ils sont très bons, tu vois. Moi je trouve Enrique, il disait avant l'approche du match contre la Sociedad, il a dit mais calmez-vous. Enfin, c'est quoi toute cette angoisse autour d'un match de 8e de finale de Ligue des Champions? Il ramène du calme et de la sérénité et du caractère dans un vestiaire qui en manquait ces dernières années, ce que les supporters demandaient. Voilà. Aujourd'hui, certes, il va se frotter avec les médias, mais il va se frotter avec les médias et il va protéger son vestiaire en faisant ça.
Vas-y, Abou. Pour rebondir sur ce qu'il a dit brièvement, il ne peut pas y avoir plus serein qu'un gars qui a perdu sa fille. Je crois
c'est
elle
ça.
Enfin, le gars, pour lui, mais genre vraiment, et je trouve que c'est une force qu'il a chez lui. C'est tout ce qui m'arrive dans la vie derrière ça, les gars, c'est rien. C'est que du football, c'est que Mbappé, c'est que une déclaration, c'est que un huitième de finale de Ligue des Champions. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Il y a beaucoup plus grave que ça. Et je pense que depuis le décès de sa fille, c'est quelqu'un de très relatif par rapport à tout ce qui se passe dans le football. Et il a bien raison.
Merci. Quelques mots pour conclure ce débat, Stéphane.
Non, il n'y a rien à dire. Dire ce qu'on peut se répéter et tout. Pour moi, ce n'est pas en tout cas une polémique. Il faut espérer. Moi, je dis qu'il a annoncé trop tôt son truc, s'il l'a fait si tôt, c'est qu'il se sent capable d'assumer derrière toutes les retombées. Donc, on a vu la première hier. Je suppose que vous vous baladez tous un peu sur les réseaux sociaux et tout, et de voir l'espèce de campagne aussi anti-Mbappé qui est en train de fleurir sur certains réseaux sociaux. Et tout ça, il devait forcément s'y attendre, s'il a annoncé si tôt. Moi, par rapport à ça, et là, je suis d'accord qu'il ne faut pas l'annoncer fin mai ou à la fin du championnat, mais effectivement, je trouve que c'est un peu trop tôt. pense qu'il aurait pu l'annoncer au mois d'avril, par exemple, ou un truc comme ça. Vous allez voir, imaginez qu'on passe et qu'on tombe le Real Madrid en quart de finale. Mais alors, j'ose même pas imaginer ça.
Après, il n'a pas dit qu'il part au Real, en tout cas pas officiellement, même si on le sait tous officieusement, il ne l'a pas annoncé officiellement. Mais merci beaucoup pour cette analyse, Stéphane. On espère te voir la semaine prochaine sur notre plateau. Et très bonne soirée à toi. Hein.
C'est possible, merci beaucoup, bonne soirée à tous.
Merci.
Bonne soirée.
Salut.
Bonne soirée.
On va enchaîner avec la question ABDF. Le foot de sélection est-il plus excitant que le foot de club? Philippe, on t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça dépend. Tu sais, quand tu regardes dans une saison, bien souvent, les matchs qu'on garde en mémoire, ce sont les matchs de Ligue des Champions. Il y a toujours 3-4 grosses affiches. On a des compétitions de clubs où parfois on a été déçus. Hein. On se rappelle un Euro de foot en 2016 où ça n'avait pas été d'un très grand niveau. Bon, il y a eu des Coupes du Monde plus sympas. Voilà. C'est pas obligatoire que le foot des sélections soit plus intéressant que le foot des clubs. Non, les meilleurs matchs, c'est souvent les matchs de Ligue des Champions. Ouais.
Donc toi, ça t'opterait plus pour les matchs de clubs qui sont meilleurs que les matchs de sélection.
Sur une saison, quand tu regardes, oui. Quand tu regardes, oui. Après... quand tu vas sur un Euro, une Coupe du Monde, bon, on a eu une super Coupe du Monde en 2022, notamment une finale d'anthologie. On a eu un Euro 2016 plutôt décevant, hein, sur le plan du jeu, y compris même le vainqueur. Donc, ce n'est pas forcément toujours le foot des équipes nationales qui l'emporte. Et très souvent, on parle plus des matchs de Ligue des Champions qui restent dans nos mémoires sur l'ensemble d'une saison, parce qu'il y a toujours deux ou trois matchs dans une saison qui sont des matchs phares et références, souvent.
Merci Stéphane.
Ouais.
Brahima, vas-y.
Après, moi, je pense que la différence entre le football de sélection et celui de club, c'est tout simplement, je pense qu'en sélection, il y a un sentiment d'appartenance qui est peut-être un peu plus fort qu'en club. Par exemple, on l'a vu sur la dernière CAN, là, c'est tout un pays, contrairement à un lot de supporters, si on peut dire ça comme ça. Et en termes d'émotion aussi, c'est... Ouais. Je pense que c'est un peu plus fort malgré tout en sélection, même si dans le foot de club, il y a pas mal d'émotions aussi. Et après, par rapport à la Ligue des Champions, par exemple, les matchs qu'il y a eu la semaine dernière, c'était horrible. Hein, donc... Mais je pense qu'il y a des mauvais matchs partout.
Oui, bien sûr.
Mais après, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'à la fin de la saison, ce qu'on retient, ça va être des demi-finales de Ligue des Champions ou ce genre de confrontation et pas forcément un match de Ligue des Nations ou je ne sais quoi.
D'accord, mais toi, t'opterais en tout cas pour les matchs en équipe nationale, c'est ça?
Oui, surtout que c'est sur une courte durée. Voilà. Forcément, quand tous les meilleurs joueurs sont au meilleur niveau, ça peut donner de très grands moments de football et même d'émotion, tout simplement.
Merci, Brahima. Abou, dis-nous, toi.
Est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il te plaît?
La question, c'est le foot de sélection est-il plus excitant que le foot de club?
Plus excitant, les mecs. Excitant. Mais bien sûr que le foot de sélection, c'est plus excitant que le foot de club. Enfin, je ne sais pas, quand tu as. Dans la sélection qui joue, c'est différent. Comme il le disait, Ibrahima, il y a un sentiment d'appartenance. Je suis désolé, c'est beaucoup plus excitant de regarder. J'allais dire une dinguerie là, attendez.
Les matchs sont pas dans le meilleur.
Parce que ça se voit, t'as
dit la Côte. Moi, j'allais te proposer même un match, en tout cas, j'attendais de le faire. Vous préférez plus un Bayern Munich-Barcelone ou un Brésil-Allemagne? C'est un peu ça.
Ah, les deux se valent, ça dépend. Les deux se valent. Tu préfères un France-Finlande ou un Bayern de Munich-Real Madrid?
C'est pas comparable.
France-Finlande.
Il fallait plutôt dire Bayern-Mayence.
Tu préfères voir un France-Finlande match amical?
Non, mais c'est pour ça, ça veut rien dire.
Non, c'est pas rien dire. Non, là, c'est pas le même contexte.
Après, vous pouvez même différencier les matchs.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Ça commence à devenir.
Moi, je parle vraiment d'excitation. Je parle pas de niveau de jeu. Je parle pas de trucs. La question, c'est excitant.
France-Finlande.
Oui, après ça englobe un peu le tout.
Moi j'ai compris excitation, désolé.
Sauf une Coupe du Monde.
Excitation, c'est, je sais pas, le foot de sélection, ça t'offre des émotions,
ça
des chairs de poule. Philippe.
Ça dépend.
Donc, Philippe, juste une question pour toi. Est-ce que tu es supporter d'un club en particulier?
Je suis journaliste.
Allez, pas mal.
Est-ce que tu as plus vibré devant un match
que France-Brésil 98. Est-ce qu'il y a un autre match qui t'a autant fait vibrer?
C'est pas le meilleur match sur lequel j'ai vibré, France 98.
À la fin du match,
le France-Argentine de 2018, oui, j'ai vibré. Le France-Argentine qu'on gagne 4-3, j'ai vibré. Bon, vous étiez jeune, le France-Allemagne qu'on perd à Séville en 82, bon, c'est un match qui reste mémorable, c'est vrai. Voilà. Après, je pourrais dire que j'ai aussi vibré pour l'Olympique de Marseille quand ils ont gagné la Ligue des Champions.
Mais pas autant.
Voilà. Si tu es supporter marseillais, oui. Si tu ne l'es pas, tu ne vibres pas autant. Mais tu es supporter du football. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai autant vibré pour Saint-Etienne. Vous n'avez pas connu la Saint-Etienne. Bon, voilà. Ça dépend des
autant
circonstances.
Autant vibré qu'une victoire en Coupe du Monde.
À Saint-Etienne, oui, je peux te dire que oui. Non, mais ça dépend. Une victoire en Coupe du Monde,
c'est son avis,
une victoire en Coupe du Monde, non, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, surtout que c'était jamais arrivé.
Merci, Philippe.
Mais je veux dire, tu as des matchs que tu regardes d'équipe nationale où, tu préfères voir une équipe française gagner une Coupe d'Europe qu'une équipe nationale qui va gagner un match amical de zéro, quoi.
Voilà. Et toi, Quentin, qu'est-ce qui est le plus excitant pour toi?
Le plus excitant pour moi, c'est les matchs en sélection. Enfin, un match de Coupe du Monde de l'équipe de France qui rassemble tout un pays.
Ah ça oui. Ça, oui.
Hein, le matin, tu te lèves de
T'en parles toute la journée. Je suis d'accord.
L'hymne national au moment.
Oui, oui. Mais par exemple, un match un France-Finlande amical ou une finale de Ligue des Champions. Mais... Alors voilà, toi. Donc
en fait,
la question,
moi l'excitation pour moi.
Après un match de Coupe du Monde, oui, on l'a vécu. Hein, bon, voilà.
Mais forcément, l'excitation, moi, je la mesure sur. Les compétitions,
faut parler des compétitions.
Officielles
voilà.
En sélection.
Il n'y a rien qui remplace une Coupe du Monde ou une championnat d'Europe.
On peut faire la chose à l'inverse. Un Portugal-Belgique de Coupe du Monde n'a rien de comparable à un Brest 3 en Liga.
Entièrement d'accord.
C'est, voilà, l'excitation, c'est en sélection, voilà, tu vas te lever le matin, tu vas dire... Ce soir, il y a la France qui joue.
Et tout le monde a le maillot bleu. Conscient marseillais, parisien.
Si la France gagne son match, un quart de finale, quoi que ce soit. Mais t'as tout le monde qui est dans la rue
faut
en train de faire
la
fête.
Faut parler de la compétition, je pense.
Donc,
c'est ça.
Voilà.
La Coupe du Monde, oui.
Après, la différence, c'est qu'en club, chacun a son club attitré.
Maintenant, à l'époque, non. À l'époque,
ouais, maintenant, chacun a son club attitré.
À l'époque, les Parisiens supportaient les Marseillais supportaient les Parisiens.
Les Lyonnais ne supportaient pas les Verts, par contre.
Ah si. Moi j'ai des Lyonnais qui pourraient te dire qu'ils ont supporté la Saint-Etienne dans les années 70. Comme ils disaient, ils étaient Stéphanois le mercredi et Lionel le week-end. Non, mais l'époque a changé aujourd'hui. Non,
voilà, en tout cas, aujourd'hui, chacun a son club attitré.
Oui, oui.
Et voilà.
Mais ça, c'est parce qu'on voit tous les matchs.
Le football en club, ça nous fera vibrer tout autant, mais. Quand il y a une victoire nationale, c'est tout un pays, c'est un sentiment d'appartenance.
Je suis d'accord. C'est ce qu'on a vécu, tout un pays qui descend dans la rue, c'est fabuleux.
Cheikh Kenza, toi, dis-nous ton ressenti. Qu'est-ce que tu trouves le plus excitant, en tout cas, entre les clubs et la sélection?
Mais il n'y a pas photo. C'est la sélection. Parce que, écoute, on peut changer de club comme on le veut à n'importe quel moment, mais tu ne verras jamais un joueur le plus souvent qui a joué dans une équipe A. Qui a joué par exemple pour la Côte d'Ivoire en A et qui décide de jouer.
C'est
pour
déjà
la France.
Arrivé, attention.
Oui, mais ça, c'est des exceptions. Et c'est ce genre de cas. Ce genre de cas, ça ne se fait plus depuis pas mal d'années maintenant. Soit peut-être là, il n'a pas joué en match officiel, mais un joueur qui a porté le maillot.
C'est un match
officiel,
mais c'est trois. Ouais. Et c'est avant,
crois-moi que ça arrivera de plus en plus.
Ça arrive maintenant. Et je pense que...
ouais, maintenant, ça va arriver de plus en plus. Mais en tout cas, pour une sélection, il n'y a pas photo. Là, on vient de le vivre avec la CAN. Et tu t'imagines qu'on avait tout un pays derrière une équipe et tout ça. Et c'est des matchs qui sont uniques parce que c'est des compétitions qui sont très courtes comparées au club où ça se joue. Par exemple, chaque année, on a la Ligue des Champions. Chaque année, on voit un nouveau vainqueur. Par exemple, la Coupe du Monde, il faut attendre 4 ans.
Oui.
Donc, du coup, plus on attend, il y a plus d'excitation. Et les matchs, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Il n'y a pas photo. Les matchs en sélection, ce sont les meilleurs matchs. Et même tous les joueurs le diront. Il y a certains joueurs même qui aimeraient gagner une Coupe du Monde, même s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, pour eux, ça refait les carrières. Donc, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, quoi, à mon niveau.
Merci, Cheikh Kenza.
Ça dépend des compétitions.
Après, Abou, vas-y.
Moi, j'ai compris que le foot de sélection était plus excitant que le foot de club quand j'étais à Bouaké, au Stade de la Paix, pour le match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je suis un grand, et moi, je le dis, je suis pas comme Philippe. Enfin, il a raison de l'être, mais malheureusement, j'arrive pas à être comme Philippe. Moi, je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille et j'ai pas eu la chance de connaître 93, mais j'ai connu 2016 quand on va en finale de Ligue Europa. Et je me rappelle comment j'étais dans ce match de Ligue Europa, j'étais tout tremblant, je transpirais, j'avais peur, j'avais chaud. Pourtant, j'étais persuadé qu'on n'allait pas gagner ce match-là, mais le match, c'est la première fois de ma vie, j'ai failli faire un malaise devant le match Mali-Côte d'Ivoire. C'est un truc de... Mais quand je vous parle d'excitation, c'est trois jours avant, tu n'arrives pas à dormir, tu fais des rêves du match, tu t'imagines le scénario, comment ça va se passer, ça va rentrer, tu t'imagines le peuple là-bas, comment ils sont. C'est un
des insomnies interminables.
Je pense qu'on doit vraiment parler en termes de compétition et pas en termes de match amico. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus excitant que de voir ton pays, que ce soit la France ou le Mali ou la Côte d'Ivoire ou l'Italie pour d'autres personnes, jouer qu'un match de club. Genre, comme il le disait tout à l'heure, c'est... Oui. Tout le monde est là, tout le monde
le
est
matin,
rassemblé.
Tout le monde se lève, tout le monde porte le maillot.
Ouais, tout le monde
tout
est...
en parle.
Il y a un truc,
France
l'atmosphère
parle,
elle est différente. L'air, il est différent.
Voilà, il faut parler en termes de compétition, pas
en termes de compétition.
Parce
que, bon, je pense
match amical France-Finlande.
Rien bon. Nouveau ouais. En match
d'équipe. On peut faire Bayern-Real Madrid.
Bien sûr. Brahim, oui, pour conclure sur ce sujet.
Après aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que quand un joueur choisit une sélection, bon, même si maintenant, au bout de trois matchs, on peut se permettre de changer.
En dessous de 21 ans.
En dessous de 21 ans. Par exemple, un joueur comme Mbappé, tu sais qu'il jouera tout le temps pour l'équipe de France. Alors qu'en club, aujourd'hui, c'est compliqué de s'attacher à certains clubs parce qu'il y a des joueurs qui changent toutes les semaines. Un club comme Marseille, par exemple, d'une saison à une autre, l'effectif, il change tout le temps.
Mais c'est pour ça que tu t'attaches au club et pas aux joueurs.
Oui, mais regarde à bout,
bah,
il a pas
non,
changé
on s'attache
club.
Au club, mais il y a forcément y a des joueurs qui marquent le club. Je suis désolé,
moi,
tu t'attaches
quand même à
certains
joueurs. Moi, je pense que je suis
attaché
au club plus qu'aux joueurs.
Bien sûr.
Et je pense que c'est pour le.
Je suis pas spécialement
c'est le club
d'accord.
Si t'as attaché un joueur, tu vas beaucoup changer aujourd'hui. Hein.
Ah bah oui.
Que ce soit Marseille ou le Real Madrid, si t'as attaché un joueur aujourd'hui.
C'est sûr, mais on peut s'attacher. Je pars du principe que quand tu t'attaches à un club, c'est quand même certains joueurs qui te font attacher à un
club. Ouais,
l'identité.
Plus souvent, il y a un joueur emblématique qui t'amène à
un emblématique.
Il y a un joueur emblématique qui t'amène à un
club. Pas qu'on parle du Real Madrid.
Ces dernières années, on a vu. Désolé de t'interrompre, Ibrahim, mais ces dernières années, on a vu qu'il y a eu pas mal de jeunes et tout ça qui ont commencé à supporter le Real de Madrid à cause de Cristiano Ronaldo. Pareil pour le Barça.
Pardon, moi, je suis supporter de Marseille depuis 2010 et depuis 2010, Marseille n'a rien gagné. Donc, je ne suis pas attaché à un joueur ou à un.
Il n'y a aucun joueur. Non, mais quand même, il y a un joueur du club. Quand même, il y a un joueur du club. Il y a un joueur,
non,
il y a un joueur,
je te le dis.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Pas,
s'il vous plaît.
Si je peux reprendre.
Il
n'y
a même pas une histoire,
attendez,
il y a un fait qui t'amène à supporter cette
pas,
équipe.
Mais c'est pas un joueur.
C'est pas un joueur. Ah, okay.
Pas, moi, il n'y a aucun
moment,
joueur
qui peut arriver.
Et d'ailleurs, à Marseille, je n'arrive pas à m'attacher aux joueurs. Même Payet, il y a une époque.
C'est ce que j'allais dire.
À Marseille, j'ai plein de maillots de Marseille chez moi. Il n'y a aucun joueur floqué dessus.
Ah, t'es Marseillais, toi. Je comprends pourquoi.
Il l'a annoncé officiellement depuis tant d'émissions où on essayait de lui faire dire. Bon, on espère que Malik nous écoute et on espère que lui aussi nous dira quel club il supporte en tout cas la prochaine fois. Oui, Brahima.
Non, mais j'ai fini sur ce que je disais. Je pense que quand on s'attache à un club, c'est quand même forcément grâce à certains joueurs. Il y a plein de gens aujourd'hui qui supportent le Barça à cause de Lionel Messi, par exemple. Ouais. Ou des gens qui supportent le Real Madrid à cause de Cristiano Ronaldo ou tout ce genre de choses.
Tu sais qu'en Angleterre, il n'y a qu'un club. On n'a qu'un club en Angleterre, à vie. Hein. Celui qui a...
Ah oui, c'est une famille là-bas.
En Angleterre, un club, il va au bout du club. Hein. Il vit avec, qu'il soit Arsenal...
Qui sont même en D2,
ah ouais,
en D3.
Quel que soit le joueur, Angleterre, on a un club à vie.
Mais c'est pas pareil. L'Angleterre, là-bas, ils disent qu'on peut même changer des femmes. On ne changera jamais de club. Donc ça, c'est des choses qui sont ancrées dans la culture.
Ils changent de femme, mais pas de
club. Oui, ils changent de femme, mais pas de club. C'est des choses qui sont ancrées dans la culture. Normalement, on se doit un bon supporter, doit de supporter une équipe, que ce soit dans la difficulté, dans les moments de gloire, mais par moments aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des gens qui ne sont pas des supporters, qui se font appeler des supporters, mais qui ne le sont pas. Autant un supporter, il endure, même quand c'est dur, il est là.
On va conclure avec ça. Moi, j'ai une petite anecdote quand même je donne quand même mon avis sur ce sujet-là où je pense que rien de mieux que la sélection. Moi, franchement, la sélection, voilà, moi, je suis à moitié malien et à moitié français aussi. Moi, je me rappelle de cette Coupe du Monde qu'on a commenté, hein, la Coupe du Monde 2022 avec Abou, où j'en ai perdu ma voix sur ce plateau, avec la finale de Coupe du Monde où Mbappé met un triplé et il revient à 2-2 en moins de 5 minutes. Fallait me voir dans j'allais faire un malaise en direct sur le plateau. Hein, c'était vraiment incroyable. Et je peux repenser aussi au match du Mali où vraiment c'est des douleurs. Je sais même pas comment les décrire, hein, mais je suis au bord des larmes. C'est la première fois que je me retrouve dans ces états-là, même si j'aime beaucoup regarder les matchs de club, c'est pas la même chose, je pense que
surtout dans les grandes compétitions, quoi, voilà,
surtout dans les grandes compétitions,
rien n'empêche une Coupe du Monde, bien sûr.
On va enchaîner très rapidement sur les cinq grands championnats, ce qui s'est passé sur les cinq grands championnats ce week-end et cette semaine. Hein. Abou, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief sur ce qui s'est passé? Par exemple, on va commencer avec le championnat en Première Ligue.
En Première Ligue, alors qu'est-ce qui s'est passé en Première Ligue? Manchester City qui a battu Bournemouth sur le but de 1-0 avec un but de Phil Foden. Phil Foden qui n'arrête pas d'exploser en ce moment. Phil Foden, c'est vraiment moi un joueur que j'apprécie énormément. Arsenal qui a écrasé Newcastle 4-1. Arsenal qui marque énormément de buts. En Première Ligue, Liverpool et Chelsea n'ont pas joué. Ils étaient en FA Cup, on en parlait en début d'émission. Liverpool premier du championnat avec 60 points. Derrière Manchester City 59, Arsenal 58 et Aston Villa 52 points. Aston Villa qui a gagné contre Nottingham et qui, on le rappelle, a perdu Bouba Camara sur blessure, lui qui reviendra en compétition que dans 8 mois.
Qui enchaîne les blessures, hein. c'est très dur pour lui, hein. Moi je pense c'est des joueurs un peu similaires entre lui et Wesley Fofana qui enchaînent les blessures ces derniers temps. Et
les blessures sérieuses en
oui,
plus.
Des blessures sérieuses, c'est très compliqué, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus.
Mais c'est dû à quoi?
On va passer très rapidement là-dessus, mais qu'est-ce que vous avez pensé vous de cette semaine en Première Ligue? Brahima, vas-y.
Bah, c'est Arsenal en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé entre le match face à Porto et ce week-end et la semaine précédente. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un trou noir.
C'est Arsenal.
Face à Porto, j'ai pas compris en fait. Je
tu sais
plus.
Qu'en Coupe d'Europe, ils vont jamais très loin, Arsenal. Hein.
C'est sûr, mais
je pense qu'ils ont du mal à passer les huitièmes de finale.
Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était pas les mêmes joueurs.
Arsenal, c'est leur problème, hein. Quelles que soient les générations.
Après, je sais que gagner à Porto, c'est pas facile. Le Stade du Dragon, c'est pas simple. Même Porto a fait un bon match aussi, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé.
On pense aussi à. On a une petite pensée pour Darius s'il nous écoute, un supporter des Gunners. Qui, voilà, ah, je pense que.
Il l'a très mal vécu.
Voilà, je pense qu'il a dû très mal le vivre. Parce que, franchement, fini, quand tu vois une équipe. Oui, mais moi, je te le dis, honnêtement, je pense que Porto vont passer. Hein. Porto, c'est une équipe très sérieuse. Moi, je pense que.
Mais Arsenal est très bon en ce moment.
Même si Arsenal est très bon.
Mais justement, on a compris.
Qui aurait pensé que Porto les aurait battus à deux?
Personne.
Au stade
du Dragon, c'est pas facile.
Là, la question, on n'a pas dit le contraire.
À Porto.
Attention.
Quand tu es à domicile, quand tu joues une grosse équipe, tu as tout le temps là, le côté où tu te dis il y a la possibilité d'aller gagner ce match. Là, c'est à l'Emirates, on l'a vu avec Lens, ils ont pris 5 ou 6-0, je ne sais plus.
Après, c'est Lens. Franchement, entre Lens et Porto, il y a quand même
un grand écart.
Porto ont l'expérience de la Ligue des Champions et ils en font tomber des gros. Ils ont l'habitude, ils sont habitués à faire tomber des gros.
Pour moi, ce n'est pas impossible que Porto passe, mais. Arsenal, là, on a encore vu contre Newcastle ce week-end. L'équipe a l'air rodée, il y a eu une erreur de parcours. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils en mettent 3 ou 4 au match retour.
Moi, en tout cas, je vous annonce une qualification de Porto et une qualification aussi de Villarreal contre eux. J'allais dire Villarreal. Bon, je l'avais annoncé. Mais c'est l'apsus de la Lazio Rome. Oui, de Villarreal, bien évidemment. Et de la Lazio Rome. Et de la Lazio Rome face au Bayern de Munich. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que. Philippe, pardon, qu'est-ce que tu en as pensé?
Tellement Marseille dans la tête.
De l'Angleterre?
Oui, de l'Angleterre.
Oui, bah écoute, moi je pense qu'il y a une équipe dont on ne parle pas beaucoup. On parle toujours de Liverpool. Il y a une équipe qui n'a pas dit son dernier mot, qui pourrait donc déjouer et mettre tout le monde d'accord, c'est Manchester City. Attention à Manchester City.
Ah, moi je pense qu'ils vont finir champions.
Oui, moi aussi. Je pense qu'ils vont être champions.
Non, c'est bizarre, ils ne pas Liverpool.
Ouais, mais ils sont à un point, ils ont des matchs en retard. Attention Manchester City.
Et Arsenal aussi qui n'est pas très loin.
Arsenal, on
les connaît.
Moi je mettrais bien un petit billet sur Manchester dans la dernière ligne droite.
Ce serait logique.
Et toi, chez Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine?
Ouais, cette semaine, elle a été prolifique à tous les groupes. Et je pense que, hormis Liverpool et Chelsea qui étaient un peu un FA Cup, et Aston Villa aussi qui fait une très bonne saison. Parce que là, jusqu'à cette période de la saison, je ne les voyais pas vraiment dans le top 4. Jusqu'à aller gratter des points et essayer même de jouer la Ligue des Champions. C'est très bon, c'est de bon augure pour cette équipe-là, avec Boubacar Camara aussi, qui a tout le temps des blessures. Je ne sais pas si c'est un problème ou c'est pas si un problème d'hygiène de vie ou quoi, ou un problème de charge musculaire, un truc comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand on se blesse à chaque approche de grande compétition, il va falloir se poser les bonnes questions, comme Kingsley Coman qui l'a vécu par le passé aussi, il y a Wesley Fofana. Mais moi, je ne vois pas vraiment Manchester City aller gagner ce titre. Pourquoi je le dis? Parce que là, Jürgen Klopp, c'est sa dernière. Donc, il va mettre tous les moyens. Et déjà, son équipe est dans une très bonne spirale. Et avec le titre encore qu'ils viennent gagner, c'est un regain de confiance. Ils vont recharger les batteries. Je pense que Liverpool est plus programmé pour gagner ce titre que Manchester City. Parce que Manchester City est engagé aussi en Ligue des Champions. Oui, ça, ouais, oui à un moment donné, ouais, ça peut les jouer un mauvais tour. Mais l'année dernière, Liverpool n'avait pas vraiment cette spirale qu'ils ont là maintenant. Déjà, ils sont en tête et tout ça. Ils savent qu'ils sont sur une bonne lancée. Et en plus, c'est la dernière. Donc, Klopp, il va mettre tous les ingrédients à la sauce pour amener le Graal du côté.
Ils sont en Coupe d'Europe encore aussi, Liverpool.
Oui, bien sûr, ils sont en Coupe d'Europe, mais ce n'est pas la même Coupe d'Europe. On ne joue pas la Ligue des Champions.
Il faut la gagner quand même.
Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions, c'est totalement différent. Mais même si City a une profondeur de banc, mais Jürgen Klopp quand même, il est préparé. Il sait que vraiment, il se doit de gagner ce titre-là, de sortir par la grande porte.
Merci, merci Cheikh Kenza pour cette analyse. Voilà, en tout cas, ça va jouer jusqu'au bout du bout, je pense. Voilà, hein, ça va jouer très loin, en tout cas. Je pense jusqu'à la dernière journée, il n'y a rien qui sera joué. Notamment aussi avec les confrontations qui vont arriver le 10 mars entre Manchester City et Liverpool. Et notamment aussi entre Manchester City et Arsenal. Ça risque d'être très compliqué.
C'est le championnat
quand même.
Le plus ouvert. Hein.
Oui, c'est le championnat le plus ouvert.
Le plus passionnant. Hein. Les autres, ça semble.
Les autres, les carottes sont déjà. Ouais. Un peu
en Espagne,
sauf non, en Espagne,
le Real, 8 points d'avance, pas avoir
problème. Ouais, 8 points d'avance. Rerone qui a fait deux faux pas, donc
je pense que le Real sont en bonne voie. Et c'est une très belle transition. On va passer à bout, s'il te plaît, sur la Liga, sur les résultats.
La Liga avec le FC Barcelone qui, après son match nul contre Naples 1-1, a réussi à gagner à Retafe 4-0 à domicile pour les Barcelonais avec un but de Fermín López qui jouait juste son deuxième match de la saison. Le jeune joueur de 20 ans, donc on voit il y a beaucoup de joueurs de la Masia qui sortent et qui performent. C'est bien l'Atlético Madrid qui a tenu en échec par Almeria 2-2 et le Real Madrid, on l'a vu hier, qui a battu le FC Séville 1-0 avec ce but de Luka Modric, hein, l'inarrêtable Luka Modric, celui qui ne prendra jamais sa retraite, et Villarreal, futur adversaire de l'Olympique de Marseille, qui eux, pour le coup, ont battu la Real Sociedad 3-1. Actuellement, il y a Gérone qui est troisième du championnat, qui fait 0-0. Et pour l'instant, le classement, c'est Real Madrid premier avec 65 points, 8 points d'avance sur le FC Barcelone, à égalité avec Gérone, 57 points. Atlético Madrid à 52 points. L'Atlético Bilbao, pas très loin derrière l'Atlético, à 49 points pour se disputer la place pour la Ligue des Champions.
Merci Abou. On va prendre une ou deux impressions, pas plus, sur ce match-là.
Moi, un petit mot pour le match du Real. Il gagne, mais une nouvelle fois dans la polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu avec l'arbitre, là, qui a repris le match parce qu'il était blessé. L'arbitre qui reprend n'a pas les compétences nécessaires pour arbitrer. Bon, je suis pas un antagoniste du Real, loin de là. Mais bon, ça commence à faire beaucoup quand même ces dernières semaines.
Ouais, bon. Ça n'est pas empêché d'être champion d'Espagne, hein. C'est sur l'ensemble de la saison, voilà quoi. Bon, effectivement.
Et ce sera mérité.
Mais les grands,
ce sera mérité.
Mais les grands ont toujours un peu de réussite.
Oui, voilà, c'est ça.
En plus, l'attitude des arbitres vis-à-vis du Real, ça a été beaucoup décrit dans la presse espagnole, tout ça, parce que le Real, depuis l'avènement de l'AVAR en Liga, le Real est l'équipe qui s'est vue refuser plus de buts et tout ça. Et par moments, des situations assez litigieuses où il va falloir que. Et moi aussi, il y a un truc que je suis satisfait. J'ai comme l'impression qu'à la CAN, les arbitres, ils ont mieux utilisé la VAR qu'en Europe.
La VAR, c'est un grand débat.
Je pense qu'on pourra en reparler parce que là, le temps presse, nos chers amis. Et Abou, on va enchaîner avec la Serie A. Qu'est-ce qui s'est passé du côté
Serie
italien?
Serie A, l'AS Roma qui bat le Torino 3-2 avec un triplé de Paolo Dybala. Dybala en forme. Un autre joueur en forme, c'est Lautaro Martinez. Victoire de l'Inter face à Lecce à l'extérieur 4-0 avec un doublé de Lautaro Martinez qui s'impose définitivement comme le meilleur buteur de Serie A. La Juventus qui a eu chaud à Frosinone mais qui gagne quand même 3-2 avec un doublé de Vlahovic. Naples tenu en échec par Cagliari. Le classement actuel en Serie A, c'est Inter premier avec 66 points, Juventus deuxième avec 57 points et un match de retard sur l'Inter. Là c'est Milan troisième, Bologne quatrième. Bologne surprenant quatrième cette saison. Le Bologne de Thiago Motta, c'est formidable ce qu'ils font. Et l'Atalanta et l'AS Rome qui sont 5e et 6e respectivement. L'AC Milan qui a été tenu en échec par l'Atalanta, justement. But de Raphaël Leao pour les Milanais.
Je pense que là, de ce côté-là, les carottes sont cuites.
Hein. L'Inter, cette année,
ils y vont. C'est
belle équipe.
C'est tout droit. Hein, on va enchaîner avec la Bundesliga.
Bundesliga, Hoffenheim qui n'y arrive. Dortmund, pardon, qui n'y arrive toujours pas. Battu par Hoffenheim 3-2 à domicile. Hein, le mur jaune n'a pas suffi. Le Bayern Munich, par contre, eux qui se relèvent. Victoire contre Leipzig 2-1 avec un doublé d'Harry Kane. Harry Kane qui, pareil, survole le championnat allemand. Harry Kane qui en est déjà à 27 buts en 24 journées. C'est tout simplement
du jamais vu.
Incroyable. Ouais, c'est ce qu'il fait là-bas. C'est un truc de ouf.
Qui est encore plus
le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, je crois que c'est encore plus fou que ce qu'il fait
Harry Kane qui s'est imposé 2-1 contre Mayence avec un but de Granit Xhaka et un but de Andrić. Et classement là-bas, le Bayern Leverkusen largement premier, 61 points, 8 points d'avance sur le Bayern Munich deuxième. Le Stuttgart de Serhou Guirassy qui fait une très belle saison troisième avec 47 points. Dortmund malgré leur défaite, leur nouvelle défaite, se classe quatrième avec un point de plus sur le RB Leipzig qui est cinquième. Et l'Eintracht Francfort qui a rejoint Hugo Ekitike qui a fait une passe décisive d'ailleurs ce week-end est sixième avec 34 points.
Merci Abou pour ces résultats. Je pense que de ce côté-là aussi...
les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, ils y vont. Je pense que c'est tout droit. Et on espère qu'ils ne feront pas comme Arsenal.
Sympa la célébration de Xhaka, je ne sais pas si vous avez vu, où il fait mine de se blesser.
Oui, où il y a le staff technique qui commence à partir, Xabi Alonso qui rigole et qui leur dit c'est une blague.
Et vous avez vu que Loris a fait son premier match aux USA.
Oui, et qu'il a encaissé un penalty aussi.
Vraiment, nous le rappeler très gentiment en début d'émission.
On l'a vu aussi. On lui souhaite le meilleur pour l'ancien capitaine français titré de Coupe du Monde avec les Bleus. Et on va enchaîner avec une question en 30 secondes. Seconde chrono, ça va la question. Voici la question hein. Brest en Ligue des Champions, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'ils pourront faire quelque chose? Vous pensez en tout cas que ça sera pas comme les autres équipes qu'on a pu voir dernièrement se qualifier grâce à une Coupe de France en Coupe d'Europe ou quoi?
Alors, moi je vais répondre très vite. Philippe, c'est parti. Ils peuvent être en Ligue des Champions, hein, mais bon, ils feront comme les autres, ils se font sortir au premier tour et finiront dernier de leur poule parce que ils verront dépouiller leurs joueurs, malheureusement. Quoi. Voilà. Comme tous les clubs qui ont joué les surprises.
Ça a le mérite d'être clair. Oui. Hein. On va enchaîner avec Brahima, oui.
Je suis du même avis que Philippe. Je pense qu'ils peuvent se qualifier en Ligue des Champions, mais ils finiront dernier avec 6 défaites. Et...
et... 6 défaites, carrément. Oui.
Non, mais je vois pas. Alors, en fait, sincèrement, je vois pas Brest battre une équipe européenne. Sincèrement. Encore Nice, peut-être. J'ai un peu d'espoir, mais Brest, aucun.
Quentin ?
Bah, moi je vais rejoindre ce qu'ils disent sur le plateau. Ils sont séduisants cette année, mais sur le papier, ça reste quand même, je trouve, assez faible pour aller concurrencer l'Europe. À limite, en Conference League ou en Europa League, pourquoi pas. Mais bon, Ligue des Champions, c'est comme nous griller une place, même si, s'ils y vont, bravo à eux, mais c'est qu'ils font pas grand chose, je pense.
Merci. Cheikh Kenza, toi, est-ce que tu penses que déjà ils vont réussir à se qualifier pour cette Ligue des Champions? C'est parti, Cheikh Kenza.
Oui, ils sont sur une bonne dynamique. Après, ça va dépendre parce que la saison, il reste pas vraiment pas trop de matchs parce que là, on rentre en masse bientôt. Donc, il reste pratiquement 2 mois. Donc, je pense que Brest, ils sont sur un bon projet. Ils sont lancés. Ils se doivent vraiment d'aboutir. C'est ce qui fera d'eux. Ils peuvent rentrer dans l'histoire. Mais les voir vraiment faire une très belle Ligue des Champions, je pense pas. Je pense qu'à défaut, peut-être une Ligue Europa. Oui, s'ils gardent même le même effectif, ils peuvent même aller en Ligue Europa et faire plus.
Merci, Cheikh Kenza. Abou, est-ce que tu peux nous rappeler aussi le classement de la Ligue 1 hein?
PSG premier avec 54 points, Brest deuxième avec 43 points, Monaco troisième avec 41 points. Pour l'instant, c'est les trois équipes qualifiées directement en Ligue des Champions, car on le rappelle, l'année prochaine, c'est quatre équipes qui peuvent se qualifier. Et le quatrième, c'est Nice qui pour l'instant est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions avec 40 points. Juste derrière, ils caracolent Lille et Lens 38 et 36 points respectivement. Et pour fermer la marche en tout cas de la Ligue 1, c'est Lorient avec 22 points. Mais c'est clairement avec 17 points, les carottes semblent cuites pour les Messins et les Clermontois.
Et les Merlus. Ouais.
Les Merlus, je suis pas sûr. 22 points et 16e.
Les Merlus, ils peuvent se sauver. Ouais.
Je pense que ça va jouer entre eux et Montpellier. Ouais. Je vois le Havre. Moi, je vois bien le Havre se maintenir.
Lyon qui se rapproche du maintien. Aussi.
Officiellement. Okay, mais je pense qu'il se rapproche même plus
de l'Europe.
De l'Europe que.
Ouais, il y a encore du chemin quand même. Ils sont à 5 points de Marseille, 9e avec 33 points. Lyon, 10e avec 28. Il y a encore du chemin.
Ça va vite. Une confrontation.
Un malentendu.
Une confrontation. L'Europe, elle a 8 déjà,
points. On dit L'Europe, elle a 8 points. Il y a d'autres équipes à dribbler avant Marseille. À Reims, il y a Rennes.
Ça se rattrape très rapidement. Bon, Abou, on va enchaîner toi avec ton 30 secondes chrono. C'est parti.
Brest, hein, ouais. Moi, pour moi, ils vont même pas aller en Ligue des Champions, Brest. Mais c'est quelque chose que je dis depuis le début de la saison. Et journée après journée, ils me font mentir. Mais je pense pas qu'ils iront. Et même l'effectif de Brest, j'arrive pas à comprendre comment ils sont là. C'est dire le niveau de la Ligue 1 cette année. À part Kamori Doumbia et Madi Camara qui sortent un peu du lot. Je trouve que c'est des joueurs moyens plus. Donc pour moi, cette équipe n'ira pas en Ligue des Champions. Et si jamais elle doit aller en Ligue des Champions, contrairement à mes collègues qui les voient faire 0 points, moi je les vois bien se qualifier pour la Ligue Europa.
Ok, c'est une bonne analyse, hein, toi qui les vois pas se qualifier en Ligue des Champions et tu les vois terminer troisième.
Parce que si, en Ligue des Champions, il y aura un truc.
Ouais, c'est qu'ils s'en sortiront quand même assez bien. Après, on a vu une équipe de Brest avec un très beau collectif. Hein, et ouais. On salue aussi le coach, Eric Roy, qui fait de très gros travaux. Bah, on va remercier nos chers auditeurs et auditrices sur ces belles paroles. On va vous remercier, Cheikh Kenza, Brahima, Philippe, Stéphane qu'on a eu à l'antenne du quotidien du sport, Quentin aussi et Abou, merci à vous d'être là, merci à Léonard et merci à Jason d'être à la technique.
Le duo d'attaque.
Exactement, le duo d'attaque qui sont toujours présents.
C'est pour ça qu'on marque pas beaucoup de buts. Voilà.
Bah, sur ces belles paroles, merci à vous et on se revoit la semaine prochaine. C'était l'émission Au bout du foot. Merci à vous.
Bonne soirée.